Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 18 juillet 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Restons un moment debout pendant que nous prions. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la maison de Dieu pour un nouveau service. Et nous te remercions, ô Dieu, de nous corriger ce matin de toutes nos erreurs. Montre-nous les sentiers sur lesquels tu as décidé de nous faire marcher et donne-nous ta grâce et ton amour afin que nous puissions suivre ces sentiers et ces instructions de tout notre cœur. Afin que nous puissions être trouvés irréprochables en Christ ce jour-là, car nous croyons, Seigneur, que ton apparition est proche. Nous voyons que tous les signes qu'il a annoncés comme devant arriver juste avant sa venue s'accomplissent maintenant. Et avec joie, nous attendons ce moment-là. De même que le vieil Abraham attendait le Fils promis, lorsqu'il vit ces derniers signes de Dieu descendre sur la terre, alors il sut que ce ne serait pas long jusqu'à ce que le Fils arrive. Et maintenant, nous voyons cela se répéter. Jésus nous a dit que lorsque ces choses commenceraient à arriver, nous devions lever la tête parce que notre rédemption est proche. La perplexité du temps, la désolation entre les nations, les tremblements de terre à différents endroits, le rugissement de la mer, le cœur des hommes leur manquant à cause de la crainte, nous réalisons que nous sommes en cette heure où les nations ne savent que faire. Il semble qu'une autre guerre soit sur le point d'éclater. Quelle chose terrible ce serait. La terre se sépare. Les hommes de science disent que quelque chose de terrible est près d'arriver. Nous voyons que la Bible en parle. Ainsi, Seigneur, aide-nous aujourd'hui à rester dans cette maison de correction et à y recevoir les ordres de notre Dieu pour aller de l'avant. En cette heure de ténèbres est pour faire briller la lumière, car il se peut que ce soit la dernière occasion que nous ayons de le faire, car nous te le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je considère que c'est un grand privilège d'être ici au tabernacle ce matin. Je regrette que nous n'ayons pas suffisamment de places assises. Ce lieu est bondé et les gens se trouvent partout et aussi dehors. Vous qui êtes dehors maintenant, vous pouvez entendre ce message sur votre radio. J'ai oublié 55 à 57. Vous qui êtes dehors sur la place de parc et dans la rue, vous pouvez entendre ce message sur votre radio entre la position 55 à 57 du cadran. Ainsi, nous avons essayé, je voulais revenir ici pour essayer d'avoir une dizaine de jours de réunion pour parler sur les 7 dernières coupes, car entre ces coupes, il y a les trompettes. Et je vous avais dit que lorsque je prêcherai sur les 7 trompettes, je les inclurai avec les coupes et les plaies. Et j'ai pensé que ce serait le bon moment de le faire. Je viens de rentrer d'Afrique et les enfants n'ont pas eu leurs vacances. Mon jeune garçon Joseph s'était trouvé un peu avait besoin d'étudier quelques semaines pour son examen. Il a passé, mais il n'est pas arrivé à la moyenne. C'est pourquoi nous l'avons gardé à Tucson pendant que j'étais en Afrique, et il a continué à lire pour rattraper certains jours d'école. Et ensuite, nous sommes rentrés. Et je pensais que pendant les vacances des enfants, j'aurais une petite réunion ici, afin de prêcher sur ces sujets. Mais à mon arrivée, nous avons découvert que nous ne pouvions pas obtenir l'auditorium de l'école. Je savais que le tabernacle n'était pas suffisant pour asseoir tout le monde et permettre à chacun d'être à l'aise pendant la durée de ce message. C'est pourquoi nous avons dû nous arranger différemment. Et au lieu d'avoir les 10 soirées, comme nous l'avions pensé, j'aurai simplement 2 services par dimanche. Ce dimanche, le dimanche suivant et le dimanche d'après, 2 services. Et nous n'avons pas mis d'annonce pour cela. Mais si quelqu'un avait appris que les réunions allaient commencer le 28 à l'auditorium de l'école, Dieu voulant, eh bien, si vous avez des amis et qu'ils aient fait des réservations dans les motels, je les annulerai, voyez-vous, car nous ne pouvons pas l'avoir. On ne peut pas obtenir l'auditorium de l'école. Ainsi, je désire parler et avoir simplement des services à caractère évangélique le dimanche matin et le dimanche soir, la prière pour les malades. Et nous avons confiance que Dieu répondra à tous ceux qui sont malades. Je ne sais pas comment Billy va s'occuper de vous. Je suppose qu'il distribuera des cartes de prière afin de contrôler l'assemblée. Mais nous ferons tout notre possible pour prier pour chacun de vous ces 3 prochaines semaines, pendant lesquelles nous avons l'intention d'avoir des réunions, si c'est la volonté du Seigneur. Souvent, il y a des entretiens particuliers. Quelqu'un désire vous voir une minute pour un problème personnel ou quelque chose d'autre. Et nous allons... Combien ici désire un entretien particulier? Levez la main. Waouh! Qui n'en veut point? Ainsi, nous, cela sera assez difficile de les avoir. C'est pourquoi, écrivez votre quête et envoyez-la. Donnez-les à Billy et ensuite, je m'en chargerai depuis là. Billy donnera des précisions au sujet des cartes de prière et dira à quel moment elles seront distribuées. Combien y a-t-il de frères ici dans le ministère ce matin? Nous n'avons pas eu l'occasion de... Je ne pense pas. En avez-vous reconnu? Combien de prédicateurs sont ici ce matin? Voudriez-vous lever la main ou vous lever? Voyons combien il y a de prédicateurs dans l'assemblée. Très bien. Remerciez le Seigneur pour ces hommes. Je souhaiterais que nous ayons le temps de reconnaître chacun d'entre eux, mais je suis sûr que vous les voyez et nous... Dieu les connaît dans leur service et nous prions Dieu de les bénir richement. Sans doute, beaucoup d'entre eux ont supprimé leur réunion pour être ici. Frère Jackson Jr. et je pense frère Don Radle. Mais cette émission est diffusée dans leurs églises et aussi à New York et ailleurs, à travers le pays. Ce message est retransmis par téléphone dans chaque église ce matin. Je suis content de voir que frère Richard Blair est ici. Je viens de lire une lettre qui parlait d'une grande chose que Dieu avait faite parmi les gens là-bas. L'autre jour, d'après ce que je comprends, il se peut que je me trompe, frère Blair. Si c'est le cas, reprenez-moi. Il travaillait et aidait un homme à poser des fils électriques dans une roulotte, ou quelque chose comme cela, je crois. J'ai lu la lettre. Ils ont interverti quelque chose et cela a fait passer le courant dans de l'eau où se trouvait un petit garçon. C'était le petit garçon de l'homme à qui appartenait la roulotte. Et cela a tué le petit garçon. Son estomac gonfla et nous savons qu'après un choc électrique, c'est ce qui arrive lorsqu'on meurt. Les petits yeux s'immobilisèrent, les dents se serrèrent. Cela bouleversa beaucoup ses frères. Frère Blair a dit qu'il songe à m'atteindre quelque part pour que je prie pour lui. Mais il se souvint qu'il est écrit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et le père se blessa les doigts en essayant de les mettre dans la bouche du petit garçon pour l'ouvrir. Alors, ils s'agenouillèrent et commencèrent à prier pour le petit garçon et il revint à la vie. Est-ce vrai, frère Blair? Un de nos fidèles frères ici. Oh, le petit garçon est ici. Eh bien, merci Seigneur, c'est bien. Nous aimerions que tu te lèves, fiston. Maintenant, nous remercions le Seigneur bien-aimé de ceci. Est-ce là le père du petit garçon? Êtes-vous le père? Ah, c'est juste. C'est ici. Et ici se trouve frère Richard Blair. Notre Dieu est capable de tout accomplir, oui, monsieur. Il l'a promis. Nous vivons dans la présence divine du grand et glorieux Père Céleste. Et toutes choses sont possibles si nous croyons. Voyez-vous le résultat, ce qu'a rapporté à cet homme de croire cela? Son petit garçon a été sauvé. Dieu avait là ses fidèles serviteurs, frère Blair et les autres, pour prier en faveur de ce petit garçon qui était dans cet état. Oui, lorsque quelque chose arrive, souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est aussi écrit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'était une détresse que ce petit garçon soit étendu là, mort sur le sol, à cause d'un choc électrique qu'il avait traversé. Ainsi, nous remercions Dieu ce matin de tout notre cœur de ce qu'il a fait pour nous. Puisse Dieu bénir aussi ces hommes fidèles. Lors d'une urgence, c'est le moment de regarder à Dieu. Regardez à lui et soyez liés à lui avant que l'urgence arrive. Nous savons ceci. Si nous trouvons grâce à Dieu, aux yeux de Dieu, nous pouvons lui demander n'importe quoi, comme vous le feriez avec n'importe quel ami. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai rencontré hier dans la rue la sœur de frère John Martin. Quelqu'un m'avait arrêté, et à ce moment, une personne passa près de moi faisant un signe de la main. En revenant à la maison, vous savez, vous voyez partout les gens qui s'arrêtent pour vous serrer la main. Et cette dame, je me souviens qu'on m'avait appelé récemment pour me dire que quelqu'un avait touché l'arrière de sa voiture, et qu'à l'occasion de cet accident, elle avait été blessée à la colonne sur toute sa longueur. Elle devait rester paralysée jusqu'à la fin de sa vie. Elle est assise dans la salle ce matin, jouissant de la présence de Dieu. Je viens de parler avec elle dans la pièce voisine. Je désirais prier de nouveau avec elle. Mais elle est ici quelque part. Je pense qu'elle n'a pas pu entrer. Oh, ici. Bien sûr, elle est assise ici près de nous, c'est vrai. Voudriez-vous vous lever juste une minute, sœur, afin que les gens puissent... Voici la dame dont le docteur a dit, il y a quelques jours, qu'elle ne marcherait plus jamais, sa colonne ayant été abîmée dans cet accident. Elle est là, guérie. Vous savez que la Bible dit, elle ne put rien dire contre cela, car l'homme était debout au milieu d'eux, c'est vrai. Voici le petit garçon ramené d'entre les morts, et voici une femme à la colonne abîmée qui se trouve au milieu de nous. Cela vient d'arriver. Ainsi, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit le nom du Seigneur. Combien devrions-nous être heureux de vivre maintenant dans sa présence et de savoir qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes contents de voir frère Veil, frère Martin et beaucoup d'autres ce matin. Et puisse le Seigneur vous bénir richement, frère. Je sais qu'il ne fait pas frais ici avec tout ce monde, mais pourtant... Lorsque j'ai quitté Tucson l'autre jour, il y avait environ 40 degrés, et vers minuit, il y avait encore 34 degrés. Ainsi, la température ici est assez agréable pour moi. À Parker, on a dit que le vendredi, avant que nous partions, il y avait 60 degrés. Vous pouvez imaginer la forte chaleur qu'il fait. Bien sûr, c'est dans le désert. Donc, ces trois prochains dimanches, aujourd'hui, le 15, je crois, est cela ou le 16? Le 15, n'est-ce pas? Le 18. Et le 28, et le 1er août, est juste? Le 25, le 18, le 25, et le 1er. Il y aura des services au tabernacle. Ne répondez pas trop à cette nouvelle, vous savez, parce que, voyez-vous, nous ne pouvons déjà pas faire entrer ceux qui sont dehors. Et cela serait pire. Revenez si vous pouvez. Je suis aussi ici pour réunir les administrateurs. Cela me contrarie vraiment d'être empêché de tenir une réunion lorsque je me sens conduit à le faire. Ainsi, je pense que je vais demander s'il ne serait pas possible de prendre notre tente, de la dresser, de rester là, vous savez, la mettre ici, sur la place, ou sur le terrain d'une ferme pour ensuite la déplacer d'un endroit à l'autre comme le Seigneur conduira. Il me semble que c'est ce qu'il va faire. Vous savez qu'il y a eu une vision à ce sujet. Et je pense que peut-être la raison pour laquelle ceci arrive, vous savez, souvent nous pensons que c'est terrible parce que certaines choses arrivent, mais vous savez, il se peut que ce soit Dieu qui vous conduit dans ces choses. S'il l'a dit, il le fera. Il y a quelques soirs de cela, beaucoup d'entre vous, environ un mois avant d'aller en Afrique, beaucoup d'entre vous ont peut-être la bande, vous qui prenez les bandes, sur le choix d'une épouse qui était prêchée en Californie. Pendant les dernières minutes de cette bande, je ne me souviens pas de m'être trouvé là-bas, mais l'Esprit du Seigneur est venu d'une telle façon, j'avais condamné leur façon de vivre et d'agir, alors que l'Évangile leur avait été prêché et proclamé si souvent, et tout à coup, le Saint-Esprit parla et dit, « Capernaum, voyez-vous, toi qui t'appelles du nom des anges, c'est Los Angeles. Tu t'es élevé jusqu'au ciel, mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, voyez-vous, et après cela, lorsque ce fut terminé, j'étais dehors, et frère Mosley et Billy étaient avec moi, et ils dirent, je me retournais et je regardais, et tout le parterre était rempli de gens et de prédicateurs qui sanglotaient. Puis je me retournais, pris l'écriture, et je dis, il y a quelque chose à ce sujet dans la Bible. Et c'était Jésus qui réprimandait Capernaum et toutes les cités de la côte qu'il avait visitées. Il dit, Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. car si les œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome et Gomorre, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, Sodome et Gomorre se trouvaient au fond de la mer. Et juste après cela, peut-être 100 ans après la prophétie de Jésus, Capernaum, la seule ville de la côte qu'il avait visitée, fut secouée par un tremblement de terre qu'il envoya au fond de la mer. Vous savez, c'était une réponse directe pour la Californie, pour Los Angeles. Et alors à Tucson, l'autre jour, alors que je venais de rentrer, un grand tremblement de terre s'est produit là-bas. Et les hommes de science en ont tracé le contour à la télévision. Les journaux ont dit que la terre s'était fissurée l'autre jour des îles Aléoutiennes ou de l'Alaska autour des îles Aléoutiennes, à environ 320 km dans la mer, et que cela revenait sur San Diego, faisant le tour de Los Angeles et ressortait à San Diego. Et cette fissure s'ouvrit de plusieurs centimètres. Des maisons se sont écroulées, des motels se sont enfoncés. Lors de cette discussion, on a posé la question suivante à l'homme de science. Cela pourrait-il sombrer un jour? Il a répondu, pourrait, cela arrivera. Il a utilisé des noms scientifiques pour expliquer comment la lave. C'est ce qui a provoqué ces tremblements de terre sur toute la longueur autour de San Diego et plus bas. Ce terrain-là est creux, et maintenant, tout commence à s'effondrer comme du sable. C'est simplement une croûte, elle s'est ouverte de plusieurs centimètres. On a pu suivre cette fissure au radar et voir où elle se trouvait. Elle s'est encore élargie de plusieurs centimètres, peut-être de 5 à 7 centimètres l'autre jour, juste après que cette prophétie eut été donnée. Et ceux qui interviewaient l'homme de science ont dit, cela n'arrivera probablement pas dans notre temps. Il a répondu, cela peut être dans 5 minutes ou dans 5 ans, mais ça sombrera. Madame Simpson, je ne pense pas qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Je vois Frère Fred ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame Simpson. Elle a repris une prophétie que j'avais donnée vers 1935 et qui disait, le don viendra. C'est écrit dans un livre quelque part. Où la mer se frayera un chemin dans le désert. Regardez ce qui arriva. Si ces milliers de kilomètres carrés tombent dans la lave de la terre et qu'ils glissent, des millions de gens mourront d'un coup. Et cela produira un tel raz-de-marée. Souvenez-vous jusqu'au grand lac Salé qui est à 30 ou 60 mètres en dessous du niveau de la mer. L'eau de ce raz-de-marée viendra probablement jusqu'aux environs de Tucson. Et la mer se frayera un chemin dans le désert. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que nos prophètes ont prédits, les jours des gentils sont comptés, pleins d'horreur, retournent aux dispersés ton bien. Nous sommes dans les derniers temps. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse richement. Je me mets à parler et j'oublie l'heure. Nous allons nous effacer de toute façon dans l'éternité assez rapidement. Et maintenant, dans Saint Marc, au chapitre 7 et verset 7, comme texte pour illustrer ce sujet que nous avons lu dans 1 Chronique 13, comme texte à l'appui, je désire prendre Marc 7, 7. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je ne sais rien d'autre que le message que le Seigneur m'a donné, et c'est tout ce dont je veux parler. Je vais parler ce matin d'un sujet qui, je pense, serait bon. Et ce soir, je parlerai de la nourriture au temps convenable, si le Seigneur le veut. La nourriture spirituelle au temps convenable et comment la recevoir. Et ce matin, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Et nous voyons ici, par la lecture de 1 Chronique 13, ce que David a fait. Ses intentions étaient bonnes, mais Dieu ne nous attribue pas un mérite pour avoir eu de bonnes intentions. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu, c'est de faire sa volonté à son commandement. Et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière, il connaît la manière correcte de le faire. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous, et je suis sûr que c'est le cas. Car si l'un voudrait que cela vienne de cette direction, et l'autre que cela aille dans telle autre, et un troisième dans une direction différente encore, mais ce qui est important avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissés sans nous faire connaître ce qui est la vérité et comment agir. Il serait injuste de nous punir pour quelque chose que nous ne saurions pas faire pour ensuite nous laisser tomber. Ce n'est pas un Dieu de ce genre. C'est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. C'est pourquoi il sait ce qui est le meilleur et quand le faire et comment le faire. Nous avons nos propres idées à ce sujet, mais lui connaît toutes choses. Alors, s'il avait établi une chose qu'il allait faire et qu'il ne nous ait pas dit ce qui allait arriver et comment cela allait arriver et que nous fassions à cause de cela un faux pas pour avoir essayé de faire quelque chose, chacun d'entre nous serait justifié. Mais il n'y a qu'un chemin et c'est sa parole. Ici, nous voyons que David voulait dans son cœur faire quelque chose de bien. Il n'avait pas de mauvaises intentions ou de mauvais objectifs, mais la maison ou l'arche de l'Éternel était loin du peuple. Et il voulait ramener l'arche de Dieu à sa place, afin que les gens puissent consulter Dieu. Au lieu d'en rester là, que serait-il arrivé si frère Blair et le père de ce petit garçon avaient dit « Eh bien, c'est vraiment dommage, l'enfant était touché et il est mort. Je pense que cela peut arriver. » Non, ils sont allés rapidement à Dieu. Que serait-il arrivé si cette dame, son mari est un prédicateur de l'Évangile, il y a quelques jours, lorsque cette dame, qui vient de se lever, a été blessée à la colonne. Le docteur dit « Elle sera paralysée le restant de sa vie. » Que serait-il arrivé si le mari, s'il avait dit, « Eh bien, chérie, nous allons nous consoler de cela. » Non, rapidement, ils ont fait quelque chose. Ils sont allés à Dieu. Combien de fois pourrions-nous nous référer dans la Bible à des gens qui, lorsqu'ils furent dans la détresse, allèrent à Dieu? Or, en ces jours-là, ils avaient seulement un endroit où rencontrer Dieu, et c'était près de l'arche, sous le sang. C'est encore le seul lieu de réunion, sous le sang. Le propitiatoire était aspergé pour faire miséricorde à l'adorateur ou à celui qui venait présenter sa requête à Dieu. Dieu avait établi une marche à suivre spéciale quant à la manière dont vous deviez faire ceci, et il n'acceptait rien d'autre. Il n'acceptait aucune autre façon de faire que celle qu'il avait fixée. Récemment, j'ai prêché un message, beaucoup d'entre vous le connaissent, sur le fait qu'il n'y a qu'un endroit adéquat où Dieu rencontre l'adorateur. Et c'est à l'endroit dont il a dit, j'y mettrai mon nom. Si nous pouvons trouver une église dans laquelle il a mis son nom, alors nous avons trouvé l'endroit. Il dit, je ne vous bénirai pas dans toutes les portes, mais seulement dans les portes que j'ai choisies pour faire habiter mon nom. Je le mettrai dans un endroit et c'est là que tu dois me rencontrer. Et c'est le seul endroit où je te rencontrerai. Et nous avons trouvé où il faisait habiter son nom. Et il n'y a qu'un endroit où il rencontre l'adorateur, et son nom est Jésus-Christ. Le nom de Dieu est Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père. » Tout fils vient au nom de son Père, et il est venu au nom de son Père. Et il n'y a, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné aux hommes, qu'ils se nomment méthodistes, baptistes, presbytériens, église de Christ ou n'importe quoi d'autre. Il y a seulement un lieu où Dieu rencontre l'homme, et c'est en Jésus-Christ. C'est le seul endroit. Et toutes ces choses qui se trouvent dans l'Ancien Testament typifient cela. Je veux que vous le compreniez clairement. Maintenant, c'est une leçon d'école du dimanche. J'ai quelques passages des Écritures et des notes inscrites ici. J'ai pensé que ceci vous aiderait à comprendre, vu que toutes les choses du passé arrivent pour nous servir d'exemple. Nous voyons que Dieu avait une manière de faire les choses, mais David, qui venait d'être béni par Dieu en devenant roi, pensa qu'il pourrait faire quelque chose pour Dieu, mais il ne s'y prit pas de la façon correcte. Nous remarquons que Dieu révèle sa parole dans son temps prédestiné. Comment Martin Luther aurait-il pu reconnaître le message aujourd'hui? Comment les presbytériens pourraient-ils, comment l'Église catholique pouvait-elle connaître le message de Martin Luther? Comment John Wesley aurait-il pu connaître le message de Luther? Comment Wesley aurait-il pu connaître le message pentecôtiste? Ou comment les pentecôtistes pourraient-ils connaître ce message? Voyez-vous, il le révèle en sa saison, parce que c'est une semence. Et au fur et à mesure qu'elle croît et mûrit, il se révèle. Ainsi, la chaleur du soleil la fait s'ouvrir. Lorsqu'elle est tendre et jeune, il la fait sortir du sol, la semence. Ensuite, il lui donne ses feuilles dans une autre phase de l'évolution du soleil. Le soleil brûlant la tuera, si c'est une semence de maturation ou le temps de maturation. Ainsi, il règle le soleil et la nature d'après sa parole. Il règle l'Église, ceux qui sont prédestinés, l'épouse, pour faire face à la saison dans laquelle ils vivent. Même la nature nous dit aujourd'hui, quand nous voyons les nations qui se disloquent, la terre qui s'enfonce, que l'Écriture est sur la muraille. Nous voyons l'Église et l'état dans lequel elle est. Nous voyons l'épouse et l'état dans lequel elle est. Et nous savons par la nature que l'Église se prépare à partir. Quel temps glorieux! C'est un temps que tous les prophètes ont désiré voir, cette heure. Ainsi, il révèle sa parole seulement dans son temps. Martin Luther lut la même Bible que nous. Wesley lut la même Bible que Martin Luther. Les pentecôtistes lisent la même Bible que nous. Jésus lisait la même Bible que les pharisiens. Mais ils avaient, en essayant de garder le grain tel quel, alors qu'il était en train de mûrir, ils ont manqué ce qui concernait leur heure. David a fait la même chose. Dieu révèle cette parole au temps et à la personne qu'il choisit. Dieu choisit à qui il veut la révéler. Il choisit cela avant la fondation du monde. Toutes ses actions étaient connues d'avance par lui et cachées aux hommes. Il les révèle comme il l'entend. C'est le temps choisi par lui et la personne de son choix. Il n'a jamais choisi un groupe ou une secte, mais il choisit une personne. C'est ainsi qu'il fait. Qui osera le reprendre et lui dire, « Seigneur, tu as fait une faute en mettant cet homme dans le ministère. Cet homme ne croit pas comme nous. » Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu'un de plus délinquant que moi pour le lui dire. Il sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir et qui laisser, que faire et quand le faire. Peu importe que nous pensions qu'une certaine personne est qualifiée pour faire un certain travail, Dieu sait qui est qualifié pour le temps et la saison concernée, où le temps est le moment juste pour le faire. Et le réel et véritable chrétien, le réel et véritable croyant Dieu, s'attend au Seigneur pour ces choses. Attendez-vous à votre ministère. Si vous ressentez un appel, soyez sûr qu'il est de Dieu. Soyez sûr qu'il est juste. Soyez sûr que ce que vous dites est opportun. La Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. S'ils marchent, ils ne se lasseront point. Regardez David, qui venait d'être roi d'Israël. Samuel versa l'huile sur lui. Et Dieu l'avait choisi pour être roi d'Israël. David reçut cette révélation d'amener l'arche de l'Éternel à la cité de David. Il n'y avait là rien de faux, mais voyez-vous, David s'y prit mal. Il semble que si un homme comme cela recevait une révélation, un grand homme comme le roi que Dieu avait choisi, le plus grand roi qui ait jamais vécu sur la terre en dehors de Christ était, je crois, David, parce que Christ est un fils de David. Ainsi, le plus grand homme, fraîchement oint, venant de la présence même de Dieu, reçut une révélation pour faire quelque chose pour Dieu, et il voulut le faire pour Dieu, mais la révélation était fausse. C'est une grande chose. Cela sera traité dans notre sujet, essayer de rendre un service à Dieu sans être appelé à le faire. David reçut la révélation. Remarquez que ce n'est pas Nathan, le prophète, qui reçut la révélation. C'est David, le roi, qui reçut la révélation. Nathan ne fut jamais consulté à ce sujet. Il ne posa jamais la question à Nathan. Mais avez-vous vu ici dans 1 Chronique qu'il consulta les chefs de milliers, de centaines, et ne consulta jamais Nathan. Il consulta le peuple, et il consulta aussi les prêtres et les théologiens de ce jour, les scribes et les théologiens. David les consulta premièrement. Il dit, si cela vient de Dieu, descendons et amenons l'arche de l'alliance de notre Dieu de la cité et consultons Dieu avant de faire ces choses. Ils dirent que du temps de Saül, ils avaient cessé de consulter Dieu par l'arche. L'urim, thummim. Ils avaient cessé de le faire. Et David dit, retournons à Dieu, nous tous. Retournons à ce qui est juste. Allons chercher l'arche et amenons-la ici. Amenez, en d'autres termes, la présence de Dieu dans la ville. Ayons un réveil, ramenons les gens. Il reçut la révélation qui semblait bonne, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Au lieu de se renseigner à la source où il aurait dû aller, il consulta ses capitaines, parce qu'il venait d'être roi. Elle continua à penser que ses capitaines en chef et ses grands hommes. Ensuite, il alla dans la soi-disant église et demanda s'il pouvait avoir le réveil. Il consulta les prêtres, les scribes, les chefs de milliers, les chefs de centaines, disant, « Est-ce la volonté du Seigneur ?» Elles répondirent, « Oui. » Mais voyez-vous, il omit de poser la question à la source principale, au travers de laquelle Dieu répond toujours. Voyez-vous, il omit de faire ainsi. Son intention était bonne, son motif était bon, son objectif était bon, d'amener un réveil dans la ville et de ramener les gens à Dieu. Mais il ne s'y prit pas de la façon dont Dieu lui avait dit de le faire. Voyez-vous, le peuple même et les prêtres étaient d'avis que le roi avait raison. Ils avaient de nouveau besoin de l'arche dans la ville. Ils avaient besoin de la présence de Dieu. Ils avaient besoin d'un réveil. Mais Dieu n'avait pas promis de révéler sa parole en temps utile à des gens. Il n'a jamais promis de la révéler au roi en son temps. Et Dieu ne change pas du tout. Il n'a pas promis de le faire ainsi. Peu importe combien vous êtes sincères et combien vos motifs et vos objectifs sont bons, et combien les gens sont désireux de recevoir ces choses, il y a une volonté de Dieu à accomplir en tout cela. C'est là-dessus que je désire mettre l'accent. Je veux apporter ceci de telle façon que vous soyez obligés de le voir, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est la raison pour laquelle je m'attarde autant ici. Je ne tiens pas à prendre votre temps à vous qui êtes au téléphone, mais je désire que vous voyez cela. Si votre temps est écoulé, alors commandez la bande. Peu importe que ce soit nécessaire, que tout le monde soit d'accord que c'est nécessaire, que ce soit la vérité. Il y a encore une chose à savoir. Est-ce la volonté de Dieu? Dieu n'a jamais promis qu'il révélerait ses secrets à ses rois ainsi qu'à son peuple. C'est pareil à ce qui arriva du temps de Michée, le fils de Jimla. Nous ne quittons pas notre texte, mais changeons uniquement l'époque pour confirmer cela, de telle manière que vous ne le manquiez pas. Il y avait du temps de Michée, c'était un homme pauvre, issu aussi d'une famille pauvre. Mais Achab, roi d'Israël, ce peuple étant une nation respectant Dieu, avait mis à part une école et préparé des prophètes sélectionnés et choisis soigneusement. Il y en avait 400 dans une école. C'étaient de grands hommes, ce n'étaient pas de faux prophètes. C'était d'authentiques prophètes hébreux. Ils consultèrent l'Éternel par le moyen de ces hommes et le prophétisèrent. Mais voyez-vous, lorsque le véritable étalement du jeu de chacun arriva, il apparut que ceux-ci étaient en dehors de la parole de Dieu et de sa volonté. Josaphat descendit de Jérusalem à la rencontre du roi Achab. Ils revêtirent leurs habits royaux et s'assirent à l'entrée de la porte, puis ils amenèrent les prophètes devant eux. Pour commencer, Achab dit, « Il y a un endroit à Ramoth, en Galade, qui, en vérité, nous appartient. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Josué l'avait divisé pour le peuple et le leur avait donné, mais les Philistins l'avaient repris. Il dit, « Nos enfants ont besoin de pain, et nous n'avons pas assez de terre pour produire ce pain, et nos ennemis, les Philistins, nourrissent leurs enfants, des païens, du produit de la terre que Dieu Jéhovah nous a donné. » C'est très direct. Et il dit, « Voici que nous, le peuple de Dieu, sommes ici avec nos enfants dans le besoin, et notre ennemi tire la nourriture de ses enfants d'une terre pour laquelle Dieu nous a appelés hors d'Égypte et qu'il nous a donnée. » Cela révolterait un théologien, n'est-ce pas? Il dit, « Monterons-nous prendre les terres que Dieu nous a données? » Josaphat répondit, « Oui, je t'aiderai. Nous sommes frères. Tu es dans Juda et je suis dans Jérusalem. Où est-ce le contraire? Je crois, non, c'est juste. Je crois que Josaphat était un homme bon, un roi, un homme juste qui aimait l'Éternel. Achab était un croyant tiède. Ainsi, ils les firent venir et Josaphat dit, « Écoutez, consultons premièrement l'Éternel. Nous devrions nous enquérir de cela. Voyez-vous, si David avait fait ce que fit Josaphat, il dit, « Ne devrions-nous pas faire ceci ?» Et rapidement, étant en Israélite, Achab dit, « Certainement, j'ai 400 prophètes qui sont hébreux comme nous, de notre propre organisation. » Je vais les consulter. Ils sont prophètes. Maintenant, voyez-vous ce, vous dites, cela m'étonne, frère Branham, un prophète? Oh oui. Il y en avait un, du temps de Jérémie, qui déclara qu'il serait là-bas seulement 2 ans, alors que l'Éternel avait dit à Jérémie 70. Il mit un jour sur son cou et le prophète le brisa. C'était Anania. Et vous savez ce qui lui arriva. Oh oui, vous devez rester avec la parole. Ainsi ces prophètes vinrent prophétiser et dire, montez, car l'Éternel est avec vous. Et l'un d'eux, je crois que c'est, j'ai maintenant oublié son nom, le chef Sédécias, je crois, dit, ils étaient faits 2 cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ceci. Cet homme était sincère. Vous repousserez votre ennemi jusque dans ses terres et vous prendrez ce qui appartient à Dieu. Cela vous est donné. Je ne crois pas que c'était un hypocrite. Je crois que c'était un homme bon. Je crois que tous ces prophètes étaient aussi. Vous dites, prophète? Oui. Souvenez-vous que l'homme qui consentit à tuer Jésus-Christ prophétisa, parce que c'était sa fonction. Il était souverain sacrificateur cette année-là. Et étant donné qu'il avait et remplissait cette fonction, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Cela ne voulait pas dire qu'il était sauvé ou autre chose pour autant. Il prophétisa Caïphe, parce que c'était sa fonction. Et ces prophètes, ayant la fonction de prophètes, prophétisèrent, et l'Esprit de Dieu vint sur eux. C'étaient des hommes avec des dons de l'Esprit. Je réalise que je parle à 99% de pentecôtistes, mais souvent, Dieu peut traiter avec eux, leur donner un don, et les gens se mettent à faire pression sur ces personnes. S'ils ne sont pas parfaitement appelés et envoyés de Dieu, ils feront que cet homme ou cette femme dira quelque chose qui n'est pas sa volonté, parce que les gens les forcent à agir ainsi. J'ai dû même reprendre notre propre pasteur ici pour faire cela. Dans les mois, vers 3 heures du matin, il me dit, « Va dire à Frère Neville. » Je suis allé vers vous, n'est-ce pas, Frère Neville? Tout le monde disait, « Frère Neville, prophétisez à mon sujet. Dites-moi ceci ou cela, voyez-vous? » Vous lui avez fait dire ainsi des choses qui n'arrivèrent pas. Ceux qui s'attendent, ceux qui attendent pour découvrir ce que le Seigneur désire faire, voyez-vous? Ainsi, ces hommes regardèrent cela du côté naturel. Cela nous appartient, mais voyez-vous, ils ne recherchèrent pas la parole ni la volonté de Dieu. Alors Michée descendit et eut une vision. Elle commença par l'examiner. L'avez-vous remarqué? Il dit, « Attendez, donnez-moi cette nuit. Laissez-moi faire des recherches et peut-être que demain je pourrai vous répondre. » Il n'a pas dit rapidement, « Ainsi dit le Seigneur », comme s'il était d'accord avec les autres prophètes. Il dit, « J'annoncerai seulement ce que Dieu me dira. » Et nous voyons que le jour suivant, Dieu lui avait dit ce qui arriverait. Et c'était absolument contraire aux autres, c'était contraire à l'école entière. Même l'un d'eux s'avança et le frappa sur la joue pour cela. Mais voyez-vous, il attendit. Alors en faisant cela, il compara sa prophétie, sa vision, avec la parole écrite. Elle s'accordait avec la parole. Lorsque quelqu'un dit qu'il a une révélation pour baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est contraire à la parole. Aucun des autres ne le fit. Quand ils disent, « Oh, nous allons, et ceci, cela, et encore cela », c'est contraire à la parole. Lorsqu'ils disent qu'ils ne croient pas en la semence du serpent, c'est contraire à la parole. Toutes ces autres choses, c'est contraire à la parole. Cela doit être selon la parole et au temps convenable. Maintenant, si David avait fait seulement cela, l'arche devait venir, mais pas à ce moment-là. Il n'y avait pas d'endroit pour elle. Remarquez maintenant, lorsqu'ils descendirent chercher l'arche, tous les dignitaires dirent, « C'est ce qu'il faut faire, David, gloire à Dieu, nous avons besoin d'un réveil. » Et c'était la véritable Pentecôte aujourd'hui, les baptistes presbytériens. « David, tu es notre roi, le capitaine un tel, le major un tel, le général un tel seront à ta réunion. » Ils disent que c'est ce qu'il faut faire, David, tu as le pays entier avec toi. C'est ainsi aujourd'hui. Je ne veux pas le pays, je veux Dieu. Même si je reste seul. David avait tous les capitaines pour lui. Il avait l'appui des forces armées. Il avait l'approbation de toutes les dénominations, de tous les théologiens, de tout. Tout le monde était d'accord avec lui. C'est ainsi que firent Achab et d'autres dans l'Écriture. Mais ils n'avaient pas Dieu, parce qu'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. J'espère que nous comprenons ceci. Remarquez, ils ont agi selon tout le rituel qu'ils connaissaient. Ils ont probablement publié des annonces et tout le reste. Grand réveil, l'arche va être amenée. Nous allons avoir un réveil. Nous allons faire ceci. Il envoya des chanteurs. Il envoya des gens avec des harpes, des trompettes. Ils accomplirent tous les actes religieux qu'ils connaissaient. Et pourtant, Dieu n'était pas là-dedans. Nous le voyons quelque peu se répéter, n'est-ce pas? Ils convoquèrent tous les chanteurs, les joueurs de harpe et de trompette, les femmes, les hommes, tous ceux qui chantaient. Ils les emmenèrent tous là-bas et suivirent toute la marche religieuse. Je voudrais me taire, mais je dois pourtant le dire. C'est ainsi que font ces dénominations aujourd'hui, pentecôtistes et les autres. Ils accomplissent toute la marche religieuse, ils chantent et poussent des cris. David cria de toute sa force. Il sauta et accomplit toutes les pratiques religieuses possibles. Et pourtant, Dieu n'était pas là-dedans. Son motif, son objectif et tout le reste était juste, mais il s'y prit mal. Voyez-vous? Il accomplit toutes les pratiques religieuses. Il cria, il chanta, il eut pour la circonstance des chanteurs, des gens qui criaient, et tout le reste. Ils dansèrent dans l'esprit, ils firent tout ce qui était religieux. Cela ressemble aux grandes croisades de notre temps. Ils voulaient gagner le monde à Christ. Cela ne se peut pas. De grands réveils nationaux, de grandes choses. Si seulement ils pouvaient réaliser que ce temps est passé, elle est condamnée. Ils font des croisades, des organisations et tout le reste. Mais le résultat ressemble un peu à ce qui arriva du temps de David. Cela ne marcha pas. Nous allons quelque part pour avoir un réveil. Certains de nos grands évangélistes aujourd'hui disent qu'ils ont 30 000 convertis en 6 semaines. Et lorsqu'ils retournent, une année plus tard, ils n'en trouvent pas 30. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il y a, c'est qu'ils agissent comme le fit David. De grands dignitaires, de grands hommes, de grands prédicateurs, de grandes écoles, une grande autorité, mais néanmoins, ils consultent une vieille dénomination au lieu de regarder la parole de Dieu en face pour voir quand c'est la bonne époque. Vous ne pouvez faire pousser certains produits qu'à certaines époques de l'année. Maintenant, voyons ce qui est arrivé. Bien que leur émotion religieuse fût grande et leur intention bonne, que leur croisade fût grande et leur chant remarquable, que leur danse fût belle et leur cri puissant, que leur musique fût grande et qu'ils eussent l'arche, mais quel bien l'arche pouvait-elle leur faire sans Dieu? Ce n'est qu'une caisse en bois avec 2 tables de pierre. C'est comme le fait de prendre la communion et d'être baptisé. Quel bien cela fait-il d'être baptisé si vous ne vous êtes pas premièrement repenti? Quel bien cela fait-il de prendre la communion si votre manière de vivre prouve que vous êtes un hypocrite et que vous ne croyez pas le reste de la parole de Dieu? Si vous en prenez une partie et pas le reste, cela montre que quelque chose ne va pas. Maintenant, lorsque tout ceci arrive, voyons maintenant ce qui arrive lorsqu'il n'est pas tenu compte de Dieu pour savoir si c'est l'âge et le temps qu'il a choisi, mais seulement la pensée des gens. Beaucoup de personnes m'ont dit, « Pourquoi ne venez-vous pas ici pour tenir une réunion? Nous avons besoin de vous. Signez ceci et encore cela. Attendez !» Vous le voulez peut-être, mais que dit Dieu à ce sujet? Beaucoup de personnes m'ont dit, « J'ai reçu une invitation, j'ai eu des entretiens particuliers, et j'ai dû attendre une année. Attendez !» Comment saurais-je ce qu'il faut faire avant que Dieu ne me le dise? Voyez-vous, vous devez attendre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, écrivez-le et laissez-moi voir ce qu'il dit. Voyez-vous, attendez. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Est-ce vrai? Remarquez qu'ils consultèrent seulement le sacrificateur de ce jour-là, les théologiens et les dénominations. Et en faisant cela, c'est-à-dire en consultant les sacrificateurs, en consultant l'assemblée et en consultant les gens, ils agirent mal. Écoutez bien, l'arche était la parole. Nous savons que c'est vrai, parce que l'arche est Christ et Christ est la parole. Voyez-vous, l'arche ou la parole ne fut pas placée là où elle devait être à l'origine, comme prescrit. Oh, ne manquez pas de comprendre ceci, vous tous. Tout était parfait et tout paraissait bien, comme si un grand réveil arrivait. Mais parce qu'ils omirent de consulter la personne compétente à ce sujet, ils consultèrent le sacrificateur et les dignitaires, Ils consultèrent les théologiens, les chanteurs, et finalement ils s'unirent tous d'un seul accord. Il y avait une grande organisation militaire et aussi les forces de la nation. Tout était dans l'harmonie pour une grande réunion. Mais ils omirent de consulter Dieu. C'est ainsi que fit Achab. C'est ainsi que firent d'autres. Quelle situation! Maintenant, ne manquez pas ceci. Ils échouèrent parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil. Et en faisant cela, regardez, en allant vers le sacrificateur, en allant vers les théologiens, en allant vers les forces armées, et en ne considérant même pas le messager de l'heure envoyé par Dieu, Nathan, ils agirent mal. Ils allèrent là-bas, prirent l'arche et la mirent sur un char neuf. Ou sur une nouvelle dénomination qui va démarrer. Mais pas sur ce que Dieu avait donné et prescrit pour la transporter. Elle était censée être transportée sur les épaules des Lévites. Mais voyez-vous, lorsque vous commencez mal, vous continuez de même. Si une balle est censée être dirigée vers une cible et que vous bougez le canon d'un millimètre ici, à 100 mètres, vous serez 10 à 12 centimètres à côté. Vous avez mal commencé. Oh Dieu, aide-nous à comprendre que cette chose a mal commencé. Ces grandes croisades de l'heure, comme on les appelle. On ne consulte pas Dieu à ce sujet. On consulte les prêtres, les hommes religieux. On consulte les organisations. Eh bien, voulez-vous avoir telle chose? Je crois que nous pouvions réunir tout le monde. Ne réunissez pas tout le monde. Consultez simplement la parole de Dieu à ce sujet. Nous voyons que lorsqu'ils font cela, que font-ils? Ils continuent exactement avec le même vieux programme religieux qui est en dehors de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Cette chose mourut il y a des années. Ces vieilles choses séchèrent il y a des années. Cela avait séché complètement au temps du Seigneur Jésus. Il ne le savait pas. Il dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Car Moïse a dit que je viendrai. Il dit, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Il dit, ils sont tous morts, aveugles que vous êtes. C'est ainsi qu'il appelait les pharisiens, ses chefs religieux. À moins que vous croyiez que je suis celui qui devait venir, vous mourrez dans vos péchés. Mais ils ne le crurent pas. Ils étaient tellement établis dans leurs habitudes. Ils devaient l'avoir à leur façon. C'est ainsi que fit David. Il avait son idée. C'est pourquoi il dit, savez-vous ce que je vais faire? Avançons. Il avait une révélation. Maintenant, avançons. Nous allons faire cela autrement. Le jour des miracles est passé. C'est pourquoi nous allons simplement commencer une autre organisation. Nous construirons un nouveau char. Et nous leur montrerons la chose qui vient de commencer. Quelle fausse prophétie! Vous devez retourner à la manière de faire de Dieu. Il la mettait sur les épaules des Lévites et cela se trouvait sur leur cœur. L'arche, la parole, ne doit pas être portée sur une nouvelle dénomination, sur les théories d'un certain homme, mais dans le cœur. La parole de Dieu ne doit pas être manipulée par des dénominations, elle doit être maniée par le cœur d'un homme dans lequel Dieu peut venir se révéler. S'il révèle cela en accord avec la parole, c'est Dieu. Si ce n'est pas ainsi, ce n'est pas lui. Et de plus, cela doit être la parole pour ce temps-là. Assurément, un pharisien pouvait dire, « Qui nous a dit que nous ne pouvions pas faire ceci et faire cela? Moïse nous a donné ses ordres. » Mais Moïse a aussi dit, « Satan a dit, il est écrit, il donnera. Il est aussi écrit de Jésus. » La saison, le temps, si vous aviez connu Moïse, vous en avez un qui vous accuse, c'est Moïse. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, dit-il, car Moïse a écrit à mon sujet, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, vous l'écouterez. S'ils avaient connu Moïse, ils l'auraient connu. Maintenant, écoutez attentivement, ne manquez pas ceci, voyez-vous, premièrement, lorsqu'ils consultèrent le sacrificateur, qu'ils consultèrent les dignitaires, qu'ils consultèrent les militaires, qu'ils consultèrent toute l'assemblée, et qu'ils dirent au voisinage de se réunir pour cette grande réunion, qui allait y avoir, ils ne s'y prirent pas correctement. Ils ne consultèrent pas Dieu, et en faisant ainsi, ils ne revinrent point en arrière pour voir le temps que c'était. Oh, frères, écoutez, Dans quel temps vivons-nous? Dans quel âge? Dans quelle heure sommes-nous? Ce n'est pas le temps pour les choses dont il parle. C'est passé. Le jugement est proche maintenant. Vous pouvez le voir poindre, mais souvenez-vous de la pierre sur la montagne. C'est l'heure du jugement. Vous souvenez-vous de la révélation ou de la vision de l'épouse? Maintiens-la au pas. Ne la laisse pas sortir du pas. Remarquez sur les épaules du sacrificateur. David et tous les sacrificateurs qui auraient dû pourtant savoir ce qu'il fallait faire, mais qu'était-ce? Les sacrificateurs auraient dû savoir cela. Les scribes, les théologiens auraient dû le savoir. Parce que la parole dit qu'il ne faut pas le faire ainsi. Et aujourd'hui, lorsqu'ils disent, « Oh, Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est de la télépathie mentale, c'est ceci ou cela. » Ils ne voient pas la parole promise. « Oh, c'était dans le passé. » David dit, « Oh, bon, maintenant, attendez une minute. Sur les épaules du sacrificateur, c'était il y a longtemps, lorsque Moïse sortit. Mais aujourd'hui, nous la mettrons sur un nouveau char. Je n'ai reçu la révélation. » Les sacrificateurs dirent, « Amen, David. » Voyez-vous? Étant influencés par leur nouveau conseil œcuménique, qui leur disait qu'ils devraient être tous ensemble et faire ceci et comme cela, les sacrificateurs trébuchèrent. Ils ne consultèrent jamais la personne qualifiée pour leur répondre. Ils n'agirent pas correctement. C'est pourquoi ils eurent des ennuis. Oui, en effet. Je crains que beaucoup de ces choses aujourd'hui, lorsqu'un grand docteur, un des plus grands pentecôtistes, s'est trouvé devant le groupe religieux l'autre soir à Chicago, j'étais censé avoir cette réunion avec les hommes d'affaires. Mais j'ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique. Je suis revenu juste un jour avant le début. Elles choisirent un grand pentecôtiste intellectuel qui se leva et leur dit que ce mouvement œcuménique était de Dieu. Et il dit qu'ils reviendraient tous, que même l'Église catholique va revenir à sa condition originelle, tous parlant langue comme évidence, et ainsi de suite. Ne sachant pas que c'est un piège du diable. Et un homme que je ne connaissais pas, quelquefois vous plantez de la semence, sans savoir ce qui va arriver. Ainsi, le président, les hommes d'affaires du plein évangile, dit aussitôt que le grand orateur s'assit, « Je n'ai pas l'intention de m'opposer à notre orateur. » Mais ce n'est pas ainsi que Frère Branham a dit que ça arriverait. Il a dit que cela conduirait à la marque de la bête. Il répondit, « Mais Frère Branham ne sait pas de quoi il parle. » Il répliqua, « Nous le croyons pourtant. » À Chicago, ils ont demandé combien aimerait que je vienne pour donner ma version à ce sujet. Alors, ils ont commencé à crier. Voyez-vous, vous plantez des semences. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous continuez à répandre la semence. Lorsque cette heure arrive, certains d'entre eux, ainsi Thomas, fut presque le dernier à voir le Seigneur. Mais il dut le voir pour le croire. Voyez-vous, lorsqu'il voit cela arriver, oh, Thomas entra. Il était un petit peu en retard. Quand il voit que les choses qui ont été prédites par le « ainsi dit le Seigneur » arrivent, ils disent alors, « Donnez-nous de votre huile. » Voyez-vous? Mais maintenant, remarquez l'influence. Parfois, de grands hommes se réunissent. Vous les entendez parler du grand tel, de tel autre, notre grand. Ne faites jamais cela. Il n'y en a point de grand parmi nous. Il n'y en a qu'un qui est grand, et c'est Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Peu m'importe si vous êtes le pasteur d'une église composée de 5 personnes. Cela ne vous fait pas petit. Cela fait de vous un frère. Voyez-vous, si vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Peu m'importe quoi ou comment, vous ne devenez pas petit. Dieu n'a pas de petits-enfants et de grands-enfants. Il a simplement des enfants et sont tous pareils. Notez que Dieu lui-même est descendu des palaces d'ivoire de la gloire pour devenir l'un de nous. Maintenant, qui est grand? Il n'est pas venu ici pour prendre la forme d'un sacrificateur, mais plutôt d'un serviteur qui lava l'argile même qu'il avait créée, des pieds de ses disciples. Maintenant, qui est grand? Mais ces hommes furent influencés. Ils ne comprirent pas. Ils pensèrent que quelque chose de nouveau allait arriver. Non, quelque chose que Dieu n'avait pas annoncé. Ils s'y prirent mal. C'est ce que tout cet enthousiasme, lorsqu'ils débutèrent il y a longtemps, chaque dénomination devait avoir quelqu'un pour pratiquer la guérison divine. Chaque dénomination devait avoir ceci ou cela. Chaque dénomination devait avoir un petit David. Chacune devait avoir ceci ou cela. Voyez-vous ce qui arriva? il se produisit la même chose qu'ici, la même chose, l'influence. La parole pour cette saison, le temps dans lequel il vivait fut ignoré. Sachez que les épaules des Lévites étaient à l'origine le moyen choisi de Dieu pour faire ces choses. Transporter cette arche sur les épaules des Lévites. Tout ce qui était différent était contraire. Tout ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il voulait. Dieu ne peut pas changer. C'est la raison pour laquelle il faut rester avec sa parole. J'ai un chronique 15-15, si vous voulez l'inscrire. Maintenant, remarquez, là, en suivant Dieu, je désire que vous reteniez ceci dans votre esprit. Pour garder les commandements de Dieu, pour faire n'importe quoi correctement pour Dieu, pour rendre un service à Dieu valable, il faut remplir 5 conditions impératives. David voulait rendre un service à Dieu. Il fit tout ce qu'il connaissait, mais il oublia Dieu. Voyez-vous, il fit quelque chose qui était juste, quelque chose qui était bon pour les gens et pour l'Église. Mais il y a 5 conditions à remplir. Je veux que vous vous en souveniez. Peu m'importe qu'un homme soit sincère dans ce qu'il fait en voulant rendre service à Dieu. Il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit « Nous allons construire une arche pour naviguer sur le Nil, comme Noé ». Le temps de Noé était le temps convenable pour une arche, mais pas son temps à lui. Que serait-il arrivé si Jésus était venu et avait dit « Maintenant, laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Nous allons monter sur la montagne comme Moïse pour y recevoir une nouvelle déclaration des lois. » Voyez-vous ? Ah, il était cette loi, voyez-vous ? Vous devez vous trouver dans le temps choisi par Dieu et la saison. Avez-vous compris maintenant ? Cela doit être au temps choisi par lui. Cela doit être dans sa saison, dans son temps et dans sa saison, et cela doit être en accord avec la parole qu'il a prononcée. Cela doit, peu m'importe que vous disiez qu'il devrait y avoir ceci ou cela, cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps et sa saison. Et cela doit être donné par la personne qu'il a choisie pour le faire. Peu m'importe qu'il y ait là des dignitaires. Le roi David était aussi grand que n'importe quel d'entre eux. Il était roi au-dessus de la nation. Mais Dieu avait une façon de faire, et il leur avait annoncé comment il le ferait. Et ils omirent d'agir ainsi. Cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps, en accord avec son programme. Et cela doit être donné par la personne qu'il a choisie pour l'accomplir. Moïse essaya de fuir loin de cela. « Prends quelqu'un d'autre, mais Dieu choisit Moïse pour l'accomplir. » Beaucoup d'entre eux, Paul essaya de se sortir de cela, beaucoup d'autres aussi, mais cela doit être fait par celui qu'il choisit. Et cela doit venir premièrement à ses prophètes. La parole de Dieu doit venir à ses prophètes. Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé cela premièrement à son serviteur, le prophète. 4. Et le prophète doit être confirmé par la parole de Dieu. Voilà vos 5 conditions à remplir. Cela doit être ainsi. Son temps, sa saison, quand il a dit que cela serait, l'homme qu'il a choisi, cela doit venir au prophète, et le prophète doit être un prophète confirmé. Nous voyons dans la Bible que beaucoup s'appelaient prophètes, mais qu'ils n'étaient pas confirmés. Notre prophète est Jésus-Christ. Maintenant, notez ceci, voyez-vous, Dieu ne leur avait pas révélé la chose par sa façon établie de le faire. Ils avaient accepté les directives de David. Ils avaient accepté les directives du sacrificateur. Ils avaient accepté les directives des scribes, des théologiens, mais ils n'avaient pas recherché la volonté de Dieu. Nathan était, lui, le prophète de ce jour-là. Plus tard, Nathan leur dit comment le faire. Mais voyez-vous, ils agirent sans consulter Nathan. Nulle part il est dit que Nathan ait été consulté. Toute l'influence, la grande chose qui se produisit, oh, je pense à ce chant. Aide-moi, Seigneur, quand les cœurs sont embrasés, Abaisse mon orgueil pour marcher avec les autres et laisse-moi invoquer simplement ton nom. Enseigne-moi à ne pas me fier à ce que font les autres, mais à attendre simplement dans la prière une réponse de toi. C'est ainsi. Laissez-moi le voir arriver de la façon correcte, alors on le croira. Dieu le révéla la chose par David, par les prédicateurs, par les gens, par les chefs de milliers et les chefs de centaines, mais pas par Nathan, qui avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Et le Seigneur a dit qu'il ne ferait rien avant d'avoir monté premièrement aux prophètes de cet âge ce qu'il fallait faire. Voyez-vous ce qu'ils firent? Ils sortirent carrément de la parole de Dieu en allant déposer l'arche sur un char neuf. Voyez-vous? Ainsi ils firent cela sans tenir compte du commandement de Dieu et de la façon qu'il avait instituée. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, mes amis. C'est pourquoi nous avons eu tant de grandes croisades sans résultat. Plus d'infidélité, plus de péché, plus de... Laissez-moi vous dire, notre nation est à sa fin. Pas seulement notre nation, mais aussi d'autres nations. Notre nation, comme l'Angleterre, à notre époque, a été la prostituée de toutes les autres. Tout au fond du Mozambique, à 770 kilomètres de la civilisation, dans la jungle, de jeunes beatniks écoutent Elvis Presley en secouant la tête et en sautant, la nuit durant, au son de leur petite radio. Ils vont jusqu'en Rhodésie, soit 1600 kilomètres plus loin, capter la voix d'Elvis Presley. Ils disent, il est très religieux, de même que Pat Boone et les autres. Pourtant, c'est le Judas de l'heure. Et ils ne le savent pas. C'est ce qui est grave. Ils croient que c'est juste. Jésus n'a-t-il pas dit, à l'âge de l'église de Laodicée, tu es nu, misérable, malheureuse, aveugle, et tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas? Les jeunes pentecôtistes qui sont en Afrique et ailleurs disent, Elvis Presley n'avait jamais entendu chanter quelqu'un aussi bien que lui. Sans doute David le fit aussi. Sans doute les chanteurs le firent. Mais cela fit que la mort frappa le camp. Voyez-vous où nous en sommes aujourd'hui, mes amis? Les épaules des Lévites avaient été choisies à l'origine par Dieu pour faire cela. Mais eux la mirent sur un char neuf. Cela ne marchera jamais. Ils ne frappèrent pas à la bonne porte pour être conseillés. Voyez-vous? Ainsi, ils s'y prirent de la mauvaise manière, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaient de lui rendre un service différemment de la manière dont il a prévu de le révéler, ils gâchent tout. Dieu agit à sa manière. Vous, hommes, peu importe avec quelle sincérité vous essayez d'agir différemment, vous allez tout gâcher. C'est pareil à ce qui arriva à Balaam de son temps. Dieu dit à Balaam, ce prophète, il était prophète, le prophète Balaam. Il était prophète et la parole vint à lui avec précision. Elle lui dit, ne va pas là-bas, ce sont ceux que j'ai choisis, c'est mon choix. Et Balaam alla avec les dignitaires, les militaires, les prédicateurs, les hommes influents, et dit, eh bien, laissez-moi vous dire, le roi, voyez-vous ce qui s'est passé en ce temps, comme pour David se répète aujourd'hui. Prenez tout sous forme de type et vous le verrez. Si vous le voyez, dites « Amen ». Voyez-vous, c'est ainsi maintenant. Les ecclésiastiques, les sacrificateurs, les scribes, les théologiens dirent « C'est ainsi que cela doit être fait ». Mais cela n'était pas juste. Et ce fut prouvé que cela ne l'était pas. Dieu rappela premièrement à Balaam, qui était un prophète. Il lui dit « Ne va pas ». Mais l'influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Et ce fut une malédiction au lieu d'un réveil. Oh, assurément, il alla là-bas et enseigna les gens leur disant, « Maintenant, regardez, attendez, vous savez quoi? Nous sommes Moabites. Souvenez-vous que la fille de Lot est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes tous d'un même sang. Nous sommes tous, toutes nos dénominations sont les mêmes. Ne vous mélangez pas à cela. Restez-en éloignés, voyez-vous? » Ainsi il dit, « Nous sommes tous pareils. Votre peuple est comme mon peuple. » Nous pouvons nous marier entre nous, ainsi nous pourrons avoir un véritable conseil œcuménique. Voyez-vous, nous pouvons tous nous rassembler et revenir à la chose originelle. Et Dieu maudit cela. Ce péché ne fut jamais pardonné à Israël. Il resta avec eux le reste de leurs jours. Il ne fut jamais pardonné. Ils périrent dans le désert avec lui. C'est vrai, parce qu'ils ne prirent pas la voie choisie et confirmée par Dieu. Remarquez que ce qu'ils firent eut pour conséquence qu'Israël mourut dans le désert. Et Jésus a dit, tous ont péri et sont morts. Observez qui resta là-bas avec Moïse, Josué et Caleb et le programme. Regardez de nouveau, voici David et ce qu'il fit. Lorsqu'il l'eut fait, que se produisit-il? La mort frappa une personne sincère. Je pense que nous sommes toujours en ligne. Et je veux que vous entendiez cela à travers le pays. Ce que fit David sans consulter Nathan pour recevoir la parole du Seigneur à ce sujet, eut pour conséquence que la mort frappa des gens sincères. Oui, il avança la main, lui qui avait vécu dans la présence de l'arche, alors qu'elle sortait de sa maison. Le bœuf avait trébuché et l'arche allait verser. Ils avaient déjà commis une erreur, deux erreurs. Premièrement, ils ne consultèrent jamais Nathan. Ensuite, ils allèrent là-bas sans avoir consulté la parole de Dieu. Samuel était la parole en ce temps-là. Ils ne consultèrent jamais la parole du Seigneur. Et en faisant ainsi, ils agirent contrairement à la parole de Dieu. Et cet homme bon, qui avait été le gardien de l'arche, c'était un évêque, pensa, je ne veux pas qu'on laisse tomber Dieu. Ainsi, il posa sa main sur l'arche, lui qui n'était pas un lévite, et il mourut. Trois erreurs. Maintenant, concentrez-vous et regardez ce que ces dénominations ont fait aujourd'hui. Voyez-vous? Ils l'ont rejeté, l'appelant fausse doctrine. Voyez-vous? Regardez où ils en sont. Ils l'auront leur conseil œcuménique. Ils ont appelé cela de la télépathie, alors que Dieu lui-même a confirmé et prouvé que c'était la vérité. Oh, ce n'est qu'une bande de nigauds là-bas, disent-ils. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est vrai, nous ne savons pas, mais nous ne faisons que prononcer ses paroles, et lui sait de quoi il parle. Voyez-vous, je ne peux pas l'exprimer, personne d'autre ne le peut, mais il le prouve. Maintenant, remarquez, aujourd'hui, de nombreux croyants sincères qui viennent à Christ de tout leur cœur, sont tués spirituellement de la même manière. Beaucoup d'hommes sincères vont à l'église catholique et veulent devenir des chrétiens. Ils vont chez les méthodistes, les baptistes, l'église de Christ, et même chez les pentecôtistes. Voyez-vous? Ils veulent devenir des chrétiens. Ils mettent leurs mains à cela et se joignent à eux. Lorsque David vit cette chose arriver, ça le réveilla. Ne vous réveillez pas trop tard, frère qui êtes là-bas. Il vit que la mort avait frappé. Montrez-moi les résultats. Qu'a fait à la nation, au corps des croyants, ce soi-disant réveil qui ramena les gens dans les églises? Rien, si ce n'est de faire naître de nouvelles organisations et dénominations, et avoir plus de membres, etc. La nation est-elle meilleure? Ils dirent qu'ils allaient en Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique, c'est une nation, c'est un pays chrétien. C'est un million de kilomètres loin d'être un pays chrétien. Je ne prie même pas pour lui. Comment puis-je prier pour lui s'il ne se repent pas sous l'effet de la grande puissance de Dieu démontrée devant lui? S'il nie, ferme les portes à cela et s'en éloigne. Je le confie à Dieu. Il s'éloigne toujours plus et maintenant il va sombrer. Observez ce qui arrive. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, un groupe ou un culte d'une certaine église, et là, ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ont ces choses enracinées en eux. Ces évêques ont dit ceci, et celui-ci a dit cela, et ainsi de suite. Vous leur montrez ici même de la parole de Dieu, où c'est ainsi dit le Seigneur, mais notre pasteur, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que je dis, ou ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée, l'heure, le temps, le message, etc., oubliez-le. Tenez-vous éloigné de cela. Je devrais me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Vous le savez. Oh, je n'en parlerai plus guère, car je suis un vieil homme maintenant. Ce n'est pas que je sache quelque chose, mais lui le sait. Je vis simplement à ce qu'il a dit. Regardez aujourd'hui les grandes croisades que nous avons eues à travers le pays. Il a été prouvé que c'était en vain. Jésus n'a-t-il pas dit, ici dans Marc 7:7, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain que David fit monter l'arche. C'est en vain qu'Achab forma ses prophètes. C'est en vain que Balaam prit cet argent. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ce sont les commandements de Dieu qui comptent. Peu importe combien, ces gens sont vraiment sincères, vous entendez tellement dire cela, ils sont si sincères. Cela ne veut rien dire du tout. Les témoins de Jéhovah, les adventistes du septième jour et tous les autres vont là, dans la rue. Ils font des choses qu'aucun de nous ne ferait. Les catholiques se tiennent au coin de la rue et des ordres religieux comme celui-ci, bien qu'ils possèdent des milliards de dollars, ils continuent à faire l'aumône. Ils sont sincères, sans doute. Les églises vont et prêchent, les prédicateurs se tiennent à la chair et font tout ce qu'ils peuvent pour avoir de nouveaux membres dans leur église. Mais c'est une nouvelle arche. Il n'y a qu'une arche à suivre, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à cette arche, tenez-vous-en éloigné. C'est sur un char neuf et pas sur les épaules de Dieu. C'est vrai. Tenez-vous éloigné de cela. N'ayez rien à faire avec cela. Dans nos grandes croisades, des milliards et des millions de gens se sont confessés. Et je doute qu'il y en ait 100 nés de nouveau sur eux tous. Voyez-vous? Ça ne veut rien dire du tout. Alors regardez à la parole promise. Vous penserez que cela est un échec. Nous savons que c'en est un. Certains de nos plus grands revivalistes dans le pays, aujourd'hui, disent que c'était un échec complet. L'Église sait que c'est un échec. Tout le monde sait que c'est un échec. Pourquoi cela? Pourquoi cela a-t-il échoué? C'était pourtant fait dans un but louable. C'était pour amener les gens dans la présence de Dieu, ces grandes croisades. Et des millions de personnes ont dépensé leur argent et l'ont mis dans de grandes croisades. Toutes les églises se sont rassemblées pour avoir de grands auditoriums et de grandes manifestations. De grandes choses sont arrivées. Pourquoi cela a-t-il échoué? Parce qu'ils n'ont jamais su l'heure dans laquelle ils vivaient. Ce n'est pas étonnant que Jésus soit resté là et qu'il ait pleuré dans son cœur. Les larmes coulaient sur ses joues, il dit, « Jérusalem, ô Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Tu as lapidé tous les prophètes que j'ai été envoyé, et vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre heure est venue. Ne pouvez-vous pas sentir le Saint-Esprit crier en vous, ô États-Unis et reste du monde, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre heure est arrivée. Votre Dieu du plaisir, votre Dieu de la corruption, votre Dieu de Sodome et Gomorre qui est venu parmi vous. Même nos petits-enfants ont les cheveux coiffés à la Beatle, les franges tombant sur leur visage. Ce sont de petits pervertis qui commencent. Nos femmes ne sont plus, elles sont au-delà de la rédemption. Nos hommes sont devenus de grosses poules mouillées qui se promènent avec de petits pantalons courts et qui agissent comme des filles. Leurs cheveux leur tombent sur le couet. Nous sommes des sodomites, et le feu et la colère de Dieu nous attendent. Savez-vous comment il va tuer, comment il va détruire cela? De la même manière dont il l'a toujours fait, lorsqu'une prostituée faisait quelque chose de mal, elle était lapidée jusqu'à mort s'en suive. On ramassait des pierres pour tuer la femme qui était une prostituée. C'est ainsi qu'il tuera l'Église. La Bible dit qu'il fera tomber du ciel des grêlons pesant chacun 50 kilos et qu'il les lapidera. Qui va l'arrêter? La science dira-t-elle que cela ne se peut pas? Il fera cela de la même manière qu'il fit l'arche et fit flotter Noé Saint-Sauf. Il le fera de nouveau pour son Église, et par ses propres lois et sa propre manière, il lapidera cette prostituée qui a commis adultère avec les rois, les chefs de centaines et de milliers. Il la lapidera selon les lois qu'il a lui-même établies. Qui va lui dire qu'il ne veut pas faire un grêlon? Demandez à quelqu'un s'il sait comment se forme une goutte de pluie. Elle décrit un cercle et retourne au travers d'un. Elle en ramasse toujours plus jusqu'à ce qu'elle ait atteint un certain poids. Ensuite, elle tombe. Dieu, que la gravitation même ne put retenir sur la terre, s'éleva dans le ciel. Dieu, qui fit la gravitation, peut aussi faire un assez gros pour faire tournoyer une pierre jusqu'à ce qu'elle pèse 50 kilos. Il a dit qu'il le ferait et il le fera. Qui lui dira de ne pas le faire? Et le fera parce qu'il l'a dit. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes près du jugement. Pourquoi? Ils essayent de manger de la vieille manne tombée là-bas, il y a 50 ans. L'Église pentecôtiste, l'Église de la sainteté, essaie de remonter jusqu'à 200 ans en arrière. Les luthériens jusqu'à 300 ans ou plus, voire des centaines d'années. Ils essaient de manger de la vieille manne. Oh, frère! Cette chose a stagné, elle est contaminée, elle renferme, comme je l'ai toujours dit, des sortes de petites queues qui se tortillent, des asticots. Cela vous tuera si vous en mangez. Regardez si David, ou si n'importe lequel des autres, avait seulement consulté le pain de vie de l'heure. Si les sacrificateurs, les prophètes, les prédicateurs, les théologiens, les écoles et les dénominations avaient seulement consulté l'heure. Mais maintenant, cela ne leur fera aucun bien. C'est déjà sorti de là. Cela ne sera d'aucune aide. Elle n'est plus maintenant. Elle a franchi cette ligne, il y a environ 5 ans, entre la repentance, le jugement et la grâce. Qu'est-ce alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète, la Bible, à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Si nous le faisons, Dieu nous effacera du livre de vie. La Bible annonçait dans Malachie 4 ce qui arriverait dans nos jours. Apocalypse 10, comment les 7 sceaux seraient ouverts et révéleraient tous ces mystères qui ont été cachés au travers de ces réformateurs. Il a dit comment cela arriverait. C'est dans la Bible, ainsi dit le Seigneur. Dieu a complètement, parfaitement identifié, confirmé cela comme étant la vérité par des signes, des miracles dans les cieux et tout le reste pendant 33 ans. Pensez-vous qu'ils écouteront cela? Non, ils sont morts. Ils ont mis leur main à quelque chose qui a tué le tout. Non, cela n'arrivera plus. C'est au moment où cette chose arriva que les yeux de David s'ouvrirent. Ô Dieu, envoie-nous un David qui puisse voir où il se trouve et qui puisse regarder et voir que Dieu a fait une promesse et comment il va le faire aujourd'hui. Dieu a dit ici même dans sa parole comme il le ferait. Dieu parla à Michée, celui-ci examina sa vision devant 400 imposants prophètes. Il examina sa vision pour voir s'il était juste. Il regarda en arrière pour voir ce que le prophète avant lui avait dit. Il vit Élie qui se tenait là et qui disait, « Achab, les chiens lécheront aussi ton sang. » Il vit alors que cette vision concordait exactement avec la parole de Dieu et la prononça. Et il avait raison, c'est vrai. Peu importe ce que les autres disaient, il resta exactement avec cette parole. Maintenant, regardons à la vision que nous avons aujourd'hui. Est-ce construire des églises? Est-ce construire de nouvelles choses? De grandes choses qui vont arriver, ou est-ce le jugement? Regardez en arrière et voyez la promesse pour aujourd'hui. Voyez quelle est la saison dans laquelle nous vivons. Vous dites, que Dieu soit béni, frère, je suis sincère, je fréquente l'église, je suis licencié en lettres, j'ai fait ceci. C'est en ordre, c'est bien, il n'y a rien contre cela. David avait aussi cela. Les sacrificateurs de ce jour-là l'avaient aussi. Les théologiens d'eux-mêmes. Mais c'était contraire à la parole. Dieu a dit comment il agirait aujourd'hui, comment il restaurerait toutes choses. Et ce qu'il ferait de nouveau. Il a promis de restaurer, exactement. Dans Joël 2, 28, il a promis qu'il restaurerait. « Je vous remplacerai, dit l'Éternel, les années qu'ont dévoré le Gélec. » Voyez-vous, c'est un même vers pris dans une phase de la vie différente. Et quand le catholicisme commence à manger de cet arbre, puis les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes et les autres, Dieu dit « Je restaurerai toutes choses afin de ramener l'Église à sa condition première. » Regardez la vision de l'autre soir. Exactement. La même épouse qui était venue de ce côté revint là. Après cela, les prostituées passèrent avec leurs robes, leurs petites choses simplement ainsi, en dansant le rock'n'roll, et s'appelant elles-mêmes l'Église. Vous dites, mais nous ne faisons pas cela. C'est ainsi que Dieu vous voit. Ce n'est pas ce que vous vous voyez vous-même. C'est la manière dont Dieu vous voit. Nul ne croit en se regardant qui est dans l'erreur. Mais c'est quand vous vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu, qu'elle vous dit si vous êtes dans l'erreur ou pas. David avait fait cela. Si David avait fait cela, il aurait vu qu'il était dans l'erreur. Si Achab avait fait cela, ou si ses prophètes avaient fait cela, ils auraient vu qu'ils étaient dans l'erreur. Un prophète confirmé avait dit qu'Achab mourrait et que les chiens lécheraient son sang. Et sa prophétie concordait exactement avec cela. Alors il sut qu'il était dans le vrai. Même Josaphat aurait dû le voir et savoir cela. Lorsque Michée reçut la vision, il n'était pas tellement avec les gens de ce temps-là, mais il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Il était dans le vrai. Maintenant, remarquez. Reportons cette chose-là à notre jour et considérons l'heure décisive dans laquelle nous arrivons. Remarquez aussi ce que David essaya de faire. J'avais ici une petite note à ce sujet. Il essaya d'amener l'arche dans la cité de David, sa propre dénomination. Regardez en arrière, lorsque le Seigneur parla pour la première fois ici sur la rivière. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue. Frère, Les assemblées ne pouvaient pas supporter cela, les unitaires et les autres non plus. Il devait en avoir un quelque part. Ah, ils voulaient tous le faire, voyez-vous, exactement. Tous voulaient l'amener dans leur propre maison. Ils voulaient l'amener dans la cité de David. Mais il n'y avait pas d'endroit préparé pour elle. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas apporter le message à une dénomination. La parole, l'arche, Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, et toute son identification, vous ne pouvez pas l'apporter à votre organisation. Ils ne le croiront jamais, parce qu'il n'y a pas de place pour cela. La Bible ne dit-elle pas qu'il était en dehors de l'église, dans l'âge de l'Odyssée, essayant d'entrer? Il n'y avait pas de place dans la cité de David. Peu importe combien c'était loyal et combien c'était grand, ce n'était pourtant pas le bon endroit. Elle devait être à Jérusalem. C'est là qu'elle alla plus tard, lorsque le prophète leur eut dit ce qu'il fallait faire d'elle. Voyez-vous, ainsi David voulut l'amener dans sa propre cité. Là, il n'y avait pas de place préparée pour elle. Christ est notre arche, et ils ne veulent pas la recevoir. Christ est la parole, ils ne veulent pas la recevoir. Ils veulent leur credo, leur dénomination, une nouvelle arche, ou un nouveau porteur. Ils veulent que la dénomination la porte, une nouvelle arche. Souvenez-vous que Christ est notre arche. Croyez-vous que Christ est la parole? Alors c'est l'arche, est-ce vrai? Bon, Christ ne peut être transporté à son emplacement correct par aucun char dénominationnel. Il traite avec une personne et non avec un groupe. Il n'a jamais traité avec un groupe, mais avec une personne. S'il le faisait, il serait en contradiction avec sa parole. Amos 3:7. Et vous ne pouvez la faire mentir. Non, monsieur, elle est vraie. Mais voyez-vous, ils essayèrent, l'arche ne peut pas être transportée par une organisation. Il y a trop de têtes, voyez-vous, cela ne se peut pas. Il a promis qu'il ne le ferait pas et il ne le fera pas. Il a dit, et lorsqu'il a promis, quand il décide de faire une chose d'une certaine manière, c'est réglé. Il ne peut agir d'une autre façon. N'ayez pas ces pensées, je peux le sentir, voyez-vous. Ainsi, il a promis qu'il le ferait d'une certaine manière. Et tout ce qui est contraire à cela, il ne le fera pas, voyez-vous. Mais c'est à sa manière originelle, selon ce qu'il a dit dans Amos 3:7, qu'il le fera. Et cela doit être confirmé, prouvé comme étant vrai. Maintenant, vous savez ce qu'il a promis pour cette heure, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi ce qu'il a dit qu'il ferait. Il ouvrirait ses sept sceaux, et tout ce qu'il ferait. Il révélerait les mystères, montrant comment ses baptêmes et toutes ces choses avaient été complètement brouillées. Et c'est ici, dans sa présence même, la science l'a prouvé, les cieux l'ont déclaré. Les hommes ont regardé cela et l'ont vu arriver. Il n'y a pas une chose qui n'ait été annoncée et qui n'ait pas été confirmée. Vous y êtes, simplement afin que vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. N'importe quel homme sur qui repose l'Esprit de Dieu sait que ceci est la vérité, parce que l'Esprit de Dieu ne dira pas le contraire de sa parole. Oh non, il sera exactement avec la parole. Vous dites, j'ai le Saint-Esprit, j'ai crié, j'ai parlé en langue, j'ai dansé dans l'Esprit. Cela ne veut rien dire du tout pour Dieu. Voyez-vous, Dieu fit pratiquement la même chose là-bas. Il chanta de toute sa force, il cria de toute sa force. Tous les autres le firent aussi, et pourtant il marchait en direction de la mort. C'est vrai, cela n'a rien à voir avec ceci. C'est la parole qui compte, la parole du Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur, oui, monsieur. Voyez-vous, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux regardent à la promesse pour aujourd'hui, puis observent et attendent jusqu'à ce qu'ils la voient, alors ils disent, ça y est, Dieu le leur révèle. Prenons Nathanaël. Philippe s'en alla et trouva Nathanaël, et Nathanaël lui dit, maintenant, attends une minute, je sais que c'est une chose promise, mais laisse-moi la voir. Et lorsqu'il la vit, il dit, c'est cela. La femme dit, je sais cela, j'ai entendu toutes sortes de théologiens, j'ai fait ceci et cela, moi-même j'ai lu la Bible, et je sais qu'un Messie doit venir et qu'il fera ces choses. C'est pourquoi tu dois être son prophète. Il répondit, je le suis. Elle dit, venez voir un homme, c'est cela. Elle attendit jusqu'à ce qu'elle ait vu ce Messie identifié par la parole de Dieu. Puis elle dit, c'est ce que nous avons attendu pendant 400 ans. Nous n'avons pas eu de prophète ni rien d'autre. Il est ici, elle dit lui-même qu'il l'est. Maintenant, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Mais les prêtres voulaient le tuer et finalement ils le firent. Voyez-vous, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas tuer son esprit, c'est vrai. Non, ils ne peuvent pas le tuer. Il est ici pour nous amener à lui. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Remarquez combien Dieu est grand, combien ses œuvres sont grandes, et qu'il ne peut jamais faillir. Dieu a une manière déterminée d'avance de faire les choses, et il n'agira jamais autrement. il a annoncé ce qu'il ferait dans les derniers jours, qu'il nous enverrait un message et que ce message aurait la même identification qu'avaient Élie, Élisée et Jean-Baptiste, et qu'il ramènerait le cœur des gens, non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, à la parole. Combien ces choses ont été confirmées lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au jour du septième ange, les mystères qui ont été. Pourquoi les méthodistes, les baptistes, l'Église de Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi? Ces mystères seront révélés dans les derniers jours, quand les sept anges, le message du septième ange, quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous? Pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, ces mystères seront alors révélés. Elles sont là, sans les connaître, et vous en êtes tous témoins. Et dans ce grand observatoire, afin que le monde soit plongé dans le doute, il se demande toujours ce qui est arrivé. À Tucson, ces grands observatoires ont pris la photographie et se demandent toujours ce qui est arrivé. Qu'est-ce? Ils mettent encore dans le journal. Quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet? Sur la manière dont cela aurait pu arriver? Il n'y a pas de brouillard là-haut. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'humidité à 45 km d'altitude. Oh là là! Il y aura des signes dans le ciel. Et lorsque ces choses arriveront et qu'il y aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Luc. En ce jour-là, le Fils de l'homme se révélera de nouveau, et le monde ressemblera à Sodome et à Gomorre. Oh, frère, n'ignorez pas les choses spirituelles, voyez-vous? Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de la parole. Ce sont elles qui témoignent de la vérité, des choses que Dieu fait en cette heure. Et maintenant observez, ceux qui ont l'Esprit de Dieu attendent ces choses, et lorsqu'ils les voient, ils les croient. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et tout ce que le Père me donne, il est la parole, viendra à moi. » Ils viendront à moi. J'ai été assez percutant ce matin. Voyez-vous, ceux qui s'attendent au Seigneur, attendent, et lorsqu'ils font cela, ils voient la promesse pour aujourd'hui confirmée, et cela ranime leur foi en sa parole, parce qu'il a promis qu'il le ferait, et voici qu'il le fait. Alors, il n'y a pas de doute. Dieu parle, sa parole parle premièrement, et ensuite l'Esprit qu'il a apporté accomplit ce que la parole a dit qu'il ferait. Oh, nous avons eu beaucoup d'imitations, nous en avons encore beaucoup de ces hommes au cœur sincère qui essaient de faire les choses comme ceci et comme cela, mais regardez ce qui est arrivé. Les gens y mettent leurs mains et ensuite ils meurent. Voyez-vous? Notez ceci. Aucun projet humain de dénomination ne marchera. Ils font des membres pour leur propre arche dénominationnelle. Ils ont construit eux-mêmes. Dieu n'a jamais eu de dénomination. Il n'aura jamais de dénomination. C'est une chose créée par l'homme. Je me demande aujourd'hui si avec toutes nos grandes croisades et nos réveils, nous n'avons pas rempli l'arche méthodiste, l'arche baptiste, l'arche presbytérienne. Qu'en est-il de l'arche de Christ, la parole? Et si l'épouse doit être la parole, alors elle doit... Et si elle doit être en Christ, une partie de l'époux, elle doit être la parole. Non la parole pour son temps, mais la parole qu'il a promise pour ce jour-ci. Il a dit qu'il avait envoyé sa parole pour façonner et former son épouse. J'espère que nous voyons cela. Et maintenant, ne revenez pas à vos idées. Ou ne prenez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Prenez la parole confirmée ici, la Bible. Elle dit... Dieu a promis et a montré dans sa parole comment il choisirait son épouse en ces derniers jours. Saviez-vous cela? Il l'a promis et a montré comment il le ferait et que par son plan originel qu'il utilisa pour choisir Christ, choisir le temps, choisir la saison, il ne peut pas manquer son épouse parce qu'elle est une partie de cette parole. Il ne peut pas la choisir par le moyen d'une dénomination, étant donné qu'il n'a pas choisi Christ par ce moyen. Christ est-il allé dans une dénomination? Est-il venu par une dénomination? Non, ils l'ont rejeté. Eh bien, c'est ce que les dénominations ont fait depuis. Ainsi, lorsqu'il choisit une épouse, peut-il venir d'une autre manière? Comment a-t-il amené Christ ici? Par la parole des prophètes. Est-ce vrai? Comment va-t-il amener son épouse ici? Par la parole des prophètes. Comment l'a-t-il identifié lorsqu'il vint? par un homme ayant l'esprit d'Élie sur lui et qui sortait du désert. Comment identifiera-t-il son épouse? Il a promis dans Malachie 4 qu'il ferait la même chose avant de détruire la terre comme ce fut le cas au jour de Sodome. Souvenez-vous que Sodome brûla, est-ce vrai? Eh bien, ce monde doit brûler. Jésus l'a dit. Ce sera le temps où, Luc au chapitre 17 et verset 30 dit, le jour où ce sera comme Sodome et Gomorre, le Fils de l'homme sera révélé. Et ensuite, qu'arrivera-t-il? Selon Malachie, il brûlera de nouveau la terre et les justes dans le millénium marcheront sur les cendres des méchants. Est-ce vrai? Voyez-vous. Ainsi, nous sommes exactement au temps de la fin. Nous sommes à la porte maintenant, attendant qu'il vienne. Dieu a promis dans sa parole qu'il choisirait son épouse de la manière originelle dont il a choisi l'époux. Il l'a prédit par les prophètes, et il a envoyé un prophète pour l'identifier. Le prophète qui se trouvait sur les rives du Jourdain dit, « Voici !» Ils dirent, « Tu es le Messie, n'est-ce pas ?» Il dit, « Non, je ne suis pas le Messie. Tu dois être le Messie. Je ne le suis pas, mais il est debout au milieu de vous, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quand il viendra, il se fera connaître, et aujourd'hui il se tient parmi vous. » Dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant toujours plus, venant dans son Église et se faisant connaître, parce que lui, l'épouse et l'époux seront pareils, se faisant connaître. Et un jour, vous verrez que celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification sera personnifié devant vous. Alors vous et lui serez un. Vous vous êtes unis par la parole, et la parole qui était au commencement retournera au commencement, lequel est Dieu. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi. Alléluia, nous y sommes. Alléluia, je suis si content de le voir se personnifier ici parmi nous, et de voir ce qu'il a promis pour sa parole. Non dans les émotions de quelqu'un, chanter, chantant, sautant et dansant, mais par sa parole. Amen, il se fait connaître. Regardez, lorsqu'ils construisirent le temple et qu'ils y amenèrent l'arche, Dieu y entra avec une colonne de feu. Amen. C'était David qui sautait, qui criait. C'était les chanteurs et les sacrificateurs qui agissaient comme cela, alors qu'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand Dieu identifia l'arche à sa place, avant qu'il puisse y faire rentrer l'arche, la colonne de feu vint pour montrer le chemin. Au-dessus des ailes des chérubins et derrière le lieu très saint, sa place de repos, la colonne de feu. Et la gloire de Dieu était là, à tel point qu'ils ne pouvaient pas voir comment faire leur service. Amen. Cela fermera les yeux de chaque théologien lorsqu'il viendra chercher son épouse. Elle sera enlevée au milieu de la nuit, comme ce fut le cas pour eux. Ils ne la verront même pas partir. Oh, que Dieu soit loué! Notez ceci, Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse, et il a dit ce qu'il ferait. Il y aurait une semence, il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses exactement, et de la manière dont il l'avait projeté originellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que ce ne serait pas au travers des dénominations, ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et en meurent. Voyez-vous, la parole, le message du soir doit obtenir les résultats du soir. Le message du soir doit semer des semences du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle de midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du soir révélera la lumière du soir. Elle révélera les résultats du soir. Le message du soir, le temps de Jésus, le message de midi, a fait apparaître des résultats de midi. Le message du commencement a fait apparaître le résultat du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Voyez-vous, par quoi? Sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment l'a-t-il créée? Par sa parole. Qui était son fils? La parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole fut faite chair et habita. Comment choisira-t-il son épouse? Par la parole, non par un char neuf, non par l'idée d'un théologien, mais il l'identifiera à sa parole. N'y mettez rien et n'en retranchez rien. Laissez-la telle qu'elle est, voyez-vous? Vers le soir, il a promis de révéler, d'ouvrir ses sept sceaux et de montrer les manquements des églises dans le passé. Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 13, 30, il a dit qu'il le ferait. Ainsi, ne le mélangeons pas. Gardons-le ainsi. Laissez-moi pour terminer. C'est presque midi moins quart. Laissez-moi terminer en disant ceci. Mes amis, écoutez. au nom du Seigneur Jésus. Ces choses sont trop claires pour que vous ne les croyiez pas. Elles sont trop claires pour que vous ne les voyiez pas. Sûrement, sûrement, vous pouvez voir cela. Sûrement, le monde peut le voir. Mais vous, maintenant, ne soyez pas influencés par ces nouveautés qu'on a aujourd'hui. Peu m'importe combien ces hommes sont bons et sincères. S'ils ne parlent pas selon la loi, les prophètes, la Bible dit qu'il n'y a pas de vie en eux. Voyez-vous? David pensa qu'il était dans le vrai. Il était sincère. Ses sacrificateurs pensaient qu'ils étaient dans le vrai. Ils étaient sincères. Mais ils omirent simplement de consulter le Seigneur à ce sujet. Et comment auraient-ils pu le faire? Peut-être qu'ils ont dit, nous avons prié. Mais ce n'était pas la manière de Dieu de le faire. Il a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Il y avait là parmi eux Nathan, mais ils ne consultèrent même pas. Maintenant, lisez dans Chroniques les quelques chapitres qui suivent. Et vous verrez que lorsque David était dans la maison, il dit, est-ce juste, Nathan était assis avec lui, que je vive dans une maison de cèdre et que l'arche de Dieu soit là-bas, sous une tente? Et Nathan demanda au Seigneur ce qu'il fallait lui répondre. Comment? Comme il avait fait des choses mauvaises, Dieu dit, dis à mon serviteur David que je l'aime. Je lui ai fait un nom pareil aux grands hommes de la terre, mais je ne peux pas le laisser faire. Voyez-vous, il m'a fait défaut, voyez-vous. Je ne peux pas le laisser faire. Je susciterai un homme. Son fils élèvera la maison du Dieu éternel. Et c'était Jésus, bien sûr, dont Salomon en fut le type, mais ensuite il faillit. Chaque homme doit faillir. Chaque être humain doit faillir. Dieu est le seul qui ne puisse faillir. Il ne peut pas faillir. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Car Dieu est la parole. Et la parole, peu importe que cela paraisse pouvoir arriver d'une autre façon, cela arrivera exactement de la manière annoncée par la parole. Maintenant, souvenez-vous, vous devez suivre la saison, le temps, voyez-vous, et suivant la saison et le temps dans lequel vous êtes. C'est confirmé afin que l'on voit que c'est exactement la vérité. Maintenant, prenez toutes ces choses nécessaires, toute la parole, tous les types, etc., et regardez où vous vous trouvez. Pensez à l'heure dans laquelle nous vivons. Regardez là-bas, où environ un dixième de la terre est sur le point de sombrer. La science dit cela. Ils regardent leur montre. Il y a quelques années, ils disaient, il ne reste plus maintenant que 3 minutes avant minuit. C'est peut-être 1 minute, c'est peut-être 1/2 minute maintenant. Ils dirent, cela n'arrivera pas dans notre génération. Cela pourrait arriver dans 5 minutes. Et remarquez qu'il a dit ensuite 5 ans. Je n'ai jamais dit cela, c'est lui, l'homme de science, qui l'a dit. Il fuit de la Californie comme des essaims de mouches, voyez-vous. Le jour où Lot sortit de Sodome, ce même jour, le feu tomba sur la terre. Un de ces jours, Dieu va prendre d'autres messages. Et nous allons quitter cette terre. Quelque chose va arriver, assurément, quand l'Église, son corps, son épouse sera partie. Maintenant, je veux lire un passage de l'Écriture. Et je désire que vous le lisiez avec moi. Je désire que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome 4 pour terminer. Je pense qu'il a été dit suffisamment là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Deutéronome 4, je vais lire ici à 2 endroits. Pour cette église, pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays, je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Ne le manquez pas. C'est une chose que je... Deutéronome chapitre 4. Je vais commencer au verset 1er. Je peux lire le verset 1er et ensuite je lirai les versets 25 et 26. Vous pourrez lire le tout quand vous arriverez chez vous, mais pour gagner du temps, afin que nous puissions sortir à l'heure, parce que je dois revenir ce soir, Dieu voulant, écoutez parler ce prophète. Il avait été dans la présence de Dieu. Il savait de quoi il parlait. Écoutez. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Cela représente notre millénium. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien. N'y ajoutez rien, et n'en retranchez rien. Ne dites que ce qu'elle dit. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés auprès de Baal-Péor. Vous êtes un peuple séparé de ces dénominations, voyez-vous? Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous n'avez jamais péri avec ces dénominations. Vous êtes maintenant vivants et dans la présence de Dieu. Ne manquez pas ceci. Maintenant, verset 25. Lorsqu'ils vont dans le pays, observez ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, c'est ce qui est arrivé, si vous faites des images taillées, quelque chose d'autre, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, écoutez, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Voyez-vous, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays ou de l'endroit dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, « Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées, dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Lui, comme il a toujours fait, garde sa promesse envers nous. Chaque promesse qu'il a faite, il l'a gardée. Vous a-t-il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? J'amènerai les cieux et la terre un jour devant vous comme défi. Dieu a-t-il déjà dit quelque chose qui n'est pas accompli et fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait pour nous? L'a-t-il fait exactement de la manière dont il a dit qu'il le ferait? Exactement. Par conséquent, il continuera à faire ainsi. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien, croyez-le simplement et marchez dans l'humilité devant le Seigneur votre Dieu. Car nous approchons du moment où nous allons entrer dans le pays. Alors, vous ne reviendrez pas, vous ne reviendrez plus à ce genre de vie. Vous reviendrez en tant qu'être immortel. Vous reviendrez quand le péché aura été supprimé et que Satan aura été lié. Et pendant 1000 ans, vous vivrez sur cette terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à tous ses commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la ville. Dehors les enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les chiens, ils n'y entreront pas. Ces choses sont seulement pour les rachetés et pour ceux qui marchent selon ses commandements. Ne recevez pas une nouvelle chose. Elles volent partout et il en viendra encore plus. Mais ne les recevez pas. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qui est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et l'esprit, Dieu recherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. Ne commencez jamais, ne tendez pas vers une organisation. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre, mais restez humble devant l'Éternel votre Dieu, car on dirait que les portes de la terre promise vont bientôt s'ouvrir. Alors, entrons avec les chants véritables et l'allégresse, quand l'épouse et l'époux prendront place sur le trône. Soyez humbles, ayez de l'amour, aimez-vous les uns les autres, n'ayez jamais rien entre vous. Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur contre quelqu'un, faites-le immédiatement sortir. Ne laissez pas, Satan fera de son mieux pour venir parmi vous. Voyez-vous, Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu'un homme, à la longue habile, vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu'ils purent dissuader Moïse de se tenir dans la présence de Dieu, alors qu'il s'y était trouvé et l'avait vu? Non, monsieur. Nous n'en retrancherons ni ajouterons rien. Gardez-le simplement de la manière que le Seigneur l'a dit. Nous ne voulons pas de dénomination, nous ne voulons pas d'organisation, nous ne voulons pas de méchanceté, nous ne voulons pas de dispute, nous voulons Dieu. Il est la parole. Maintenant, inclinons nos têtes. Ô Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. Depuis que tu as parlé il y a 33 ans ici sur la rivière et maintenant, tu as confirmé ce que tu avais dit. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Gardons-le tel que tu l'as donné, marchant dans l'humilité et continuant à te suivre. Ces gens sont ceux, Seigneur, que tu as donnés comme fruit au ministère, à côté de tous ceux qui dorment à travers le pays et autour du monde. Les cimetières, ici, renferme beaucoup de ces saints bénis qui attendent. Mais comme il a été dit, nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. La trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement, puis nous serons ravis avec eux. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle dérobera l'Église à la vue du monde. Celle-ci ne la verra même pas quand elle partira. Père Céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. Ô Dieu, fais que nous marchions toujours devant toi dans l'humilité. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas le savoir. Ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. Il ne dépend pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et de marcher avec toi. Notre désir et que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. Pardonne-nous nos péchés passés, guide-nous et protège-nous à l'avenir de tous les pièges du diable. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu notre Père. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être tes enfants. Nous sommes une classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les sociétés de ce monde, par les dénominations des églises. Nous voyons la fin. Et nous te remercions pour la vue spirituelle de ta parole, qui nous permet de voir les temps de la fin, car toutes ces choses doivent aboutir à ces grandes habitations qui viendra du ciel. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ici ce jour-là, mais que nous soyons en ta présence, dans ton sein. Guéris les malades et les affligés, Seigneur, nous te prions de nous donner ce soir un si grand service qu'il n'y ait plus une seule personne faible au milieu de nous, à cause de ta présence, Seigneur. Puisse nos cœurs être continuellement attachés à toi. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et les choses du monde ne signifient rien, car ne sont que temporelles. Toutes doivent disparaître. Nos travails, notre place, nos amis, tout doit disparaître. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit disparaître. Mais il n'y a qu'une chose ici sur laquelle notre être doit être centré, c'est sur Jésus-Christ. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est secondaire et nous attacher à lui, car il est la parole. Accorde-le, Seigneur, la parole confirmée de l'heure. La parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alors que vos têtes sont inclinées, je me demande s'il y en a ici qui n'ont jamais véritablement pris cette grande... Vous croyez cela, mais croire n'est pas suffisant. Je crois que mon épouse était une gentille fille. Je connaissais son père et sa mère. Je la connaissais depuis des années. Elle avait une vie droite. Je croyais qu'elle était bien. Mais cela n'a pas fait qu'elle fût à moi. Elle n'est pas devenue mon épouse avant que je l'accepte et qu'elle m'accepte. Maintenant, Jésus veut que vous acceptiez. Ne voulez-vous pas l'accepter et devenir une partie de sa parole? Si vous n'avez pas fait cela, alors que toutes les têtes et les cœurs sont inclinés, j'ai confiance. Il n'y a pas de place ici pour un appel à l'autel. De toute façon, je n'y suis pas très favorable. Je crois que Dieu vous visite là où vous êtes. Voudriez-vous lever la main et dire, « Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière. Je veux faire cela. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, il y a des mains partout. Je veux être comme cela. Que Dieu vous bénisse, frère. Et que Dieu vous bénisse, frère. Et vous tous qui êtes là. Je veux être cela. Que Dieu vous bénisse. Je désire vraiment être cela. Maintenant, regardez, mes amis. Il y a peut-être un petit quelque chose. Si vous n'êtes pas cela, c'est qu'il y a alors quelque chose d'autre sur lequel vous avez centré votre fille. Vous êtes si près de cela. Vous le regardez. Vous le voyez. Vous l'avez vu grandir pendant des années. Vous le voyez maintenant arriver à maturité. Si cela veut tout dire pour nous et que rien d'autre ne subsiste, pourquoi ne détourneriez-vous pas la tête de la chose à laquelle vous avez regardé pour centrer désormais votre vie sur lui, lui qui est le centre de toute vie et qui tient l'au-delà dans sa main? Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions ensemble? Ô Dieu bien-aimé, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, même des prédicateurs ont levé leurs mains. Ils voulaient dire qu'ils désiraient se rassembler autour du Seigneur Jésus. Et pourtant, on dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quelque chose qui les tire d'un côté ou d'un autre. C'est peut-être une dénomination, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un péché, c'est peut-être quelque chose qu'ils cachent dans leur cœur. Je ne le sais pas, Seigneur, toi tu le sais. Quoi que ce soit, puisse-t-il maintenant, Seigneur, pendant que tu en appelles d'autres, tu les as appelés, ils sont à toi. Et pendant que tu les appelles, puissent-ils se libérer du péché qui les entoure, comme la Bible dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec patience la course qui est devant nous. Fixons les yeux sur quoi? Notre travail, une dénomination, notre affiliation, le conseil? Sur Christ, le chef et le consommateur de la foi que nous avons en lui. Fais cela pour nous aujourd'hui, Père, car nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Maintenant, ils sont à toi, Seigneur. Fais avec eux comme tu le désires. Fais avec nous comme tu le désires. Nous sommes à toi, au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Et acheta mon salut. Sur le bois du calvaire. Avez-vous oublié votre dîner? Avez-vous oublié si les enfants sont bien dans la voiture ou pas? Avez-vous oublié tout ce qui est du passé et réalisé? Quelle est la chose que vous ressentez maintenant? Cela se matérialise devant vous, jour après jour. Que cela soit le centre de... Que les autres choses disparaissent, elles périront de toute façon. Oh, continuez simplement à le suivre. De même qu'Élisée suivit Élie, suivons-le. Car un jour, nous serons aussi enlevés. Nous avons vu le char de feu qui l'a fait sortir de la tombe. Nous le sentons maintenant parmi nous. Un jour, il décrochera les chevaux des buissons. Nous monterons. Ne voulez-vous pas l'aimer? Et acheta mon salut sur le bois du calvaire. Oh, ne pouvez-vous pas en fermant les yeux, presque le voir suspendu là-bas? Je l'aime. Qui d'autre pourrait l'aimer? Chaque fois que je retourne à la maison, quelqu'un n'est plus là. Je suis absent pendant quelques mois et lorsque je reviens, quelqu'un n'est plus là. Je deviens triste chaque fois que je reviens. L'autre jour, un garçon avec lequel je suis allé à l'école marchait dans la rue et me dit « Salut Billy ». Je le regardais. Autrefois, c'était un beau garçon aux cheveux très noirs et brillants, coiffés en arrière. Maintenant, ils sont aussi blancs que la neige. Il se tenait si droit. Mais maintenant, son ventre sort comme ceci. Je lui dis « Salut Jim ». Je le regardais. Je sentis mon cœur et je pensais « Oh Dieu, ce garçon et moi, cet homme et moi avons le même âge ». Alors je sus que mes jours étaient comptés. Je sais que cela ne peut plus durer longtemps. Je regarde autour de moi et je pense « Que puis-je faire, Seigneur? Aide-moi ». Je ne veux pas marcher devant toi, je veux rester juste derrière toi. Tu me montres le chemin. Je regarde et je pense « 56 ans ». Oh là là, cela ne peut plus être long. Et je baisse les yeux et je vois mon cher ami Bill Dow qui est assis là avec ses 72 ou 73 ans. Je regarde autour de moi, je vois ses enfants qui pensent « J'attendrai jusqu'à ce que je sois aussi vieux que frère Branham pour y penser. Mon petit chou, tu ne verras peut-être jamais cela. Je doute beaucoup que tu le vois, voyez-vous. Mais pensez que si frère Bill Dow passe la journée, il survivra à des centaines de jeunes de 15 à 16 ans. Il en meurt à chaque heure. Ainsi, quelle différence votre âge fait-il? Que faites-vous concernant l'heure dans laquelle vous vivez? Que faites-vous pour Jésus en ce moment, voyez-vous? Oh, je désire le voir. Je désire voir l'heure où je verrai tous ces vieux corps transformés et changés en un instant, en un clin d'œil. Si ce n'est pas ainsi, alors nous sommes les gens les plus insensés. Mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Voyez-vous, vous êtes comme un animal. Vous mourrez, vous irez dans la terre et c'est tout. Mais il y a une âme immortelle qui vit en vous, frère. Nous l'avons entendu du ciel. Nous l'avons vu confirmé. Nous savons qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Maintenant, vous, les membres du corps de Christ, pendant que nous chantons de nouveau cela, je désire que vous vous serviez la main les uns aux autres, tout en restant assis ici. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aime le premier. Aimez-vous, dites Amen. Aimez-vous sa parole, dites Amen. Aimez-vous sa cause, dites Amen. Aimez-vous son corps, dites Amen. Alors vous vous aimez les uns les autres. Amen. C'est vrai. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, j'ai posé mes mains sur ces mouchoirs. Si vous devez les prendre avant ce soir, je vais demander à frère Richard Blair, dont Dieu a exaucé la prière l'autre jour. Lui, lorsque l'autre jour, lui et le frère ont prié pour que la vie revienne dans ce petit garçon qui est assis parmi nous aujourd'hui. Cela à cause de leur foi en Dieu. Et maintenant, je vais lui demander de terminer dans quelques instants par la prière, afin que nous puissions revenir ce soir. C'est environ midi cinq, d'après cette montre. Je veux dire que vous reveniez ce soir, si vous le pouvez, et si vous êtes dans les parages. Si vous devez rentrer chez vous, que Dieu vous aide et vous protège sur la route. Si vous pouvez rester et que vous le vouliez, vous êtes les bienvenus, maintenant que Dieu vous soit avec vous. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, jusqu'à, levons nos mains vers lui, rencontrions aux pieds de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau.